السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن كلامي كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله. Cette soirée du mercredi 1, le premier Jumu'a, le Afoun Jumada, l'Oula, 1434 de l'Hégire, correspondant au 13 mars 2013, bi'idhnillahi ta'ala. Donc nous sommes avec notre livre « Ainsi étaient les pieux prédécesseurs » au cours numéro 18, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Une seconde, inshallah ta'ala, une seconde. Donc le cours aujourd'hui, inshallah ta'ala, portera sur la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je vais commencer, inshallah ta'ala, à lire ce qu'il y a dans le livre, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc, بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Avant cela, avant d'oublier aussi. Aujourd'hui, on a commencé à 21h. Et moi, j'avais dit que normalement, on allait commencer, on avait changé de programme pour commencer à 19h30. Ensuite, j'ai remarqué que à 19h30, ce n'était pas possible parce que c'est court. C'est-à-dire, quand je fais la prière du Maghreb, ensuite, j'arrive à la maison. Il est 19h30 dépassé. Ensuite, je dois faire minimum 25 minutes ou 30 minutes. Ensuite, aller à la mosquée. Donc, c'est très court. Donc, c'est pour ça que j'attends un peu qu'il y ait assez de temps entre Maghreb et Isha pour commencer à faire des cours après Maghreb. Donc, je reviens jeudi. Nous sommes sur la base que. Voilà. Nous sommes sur la base que les cours, c'est toujours après Salat Isha. Jusqu'à ce que je vous redise de nouveau que c'est après le Maghreb. Inch'Allah, quand ça va s'allonger, les jours vont s'allonger. Donc, on va dire dans la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Amir ibn Rabi'a, rahimahullah, rapporte. Il a dit, j'ai entendu Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala, anhu, dire. Il a dit, je l'ai entendu dire en prenant un brin de paille. Il avait pris un brin de paille et il a dit, c'est Omar ibn Khattab qui dit, il a dit, j'aurais aimé être ceci. J'aurais aimé que ma mère ne me mette pas, ne me mette jamais au monde. J'aurais aimé être totalement oublié. Il a pris un brin de paille, il a dit, j'aurais aimé être ceci, j'aurais aimé que ma mère ne me mette jamais au monde. J'aurais aimé être totalement oublié. C'est-à-dire, il avait demandé que si Allah subhanahu wa ta'ala ne l'avait pas créé, et si c'est pas, on ne l'avait pas enfanté. Bien sûr, il dit cela, ce sont des gens qui disent cela, ce sont des gens qui quoi? Qui ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que on dit de lui, ou de Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu, qu'il a dit que si jamais, je crois que c'est surtout Omar qui a dit ça, il a dit, si jamais Yom al-Qiyama, Allah subhanahu wa ta'ala me dit d'accéder au paradis, il a dit, si je mets le pied droit dans le paradis, j'ai peur, naam, j'ai peur, et je ne suis pas encore apaisé, j'ai peur que Allah ta'ala me dise de revenir. De revenir marche arrière et qu'il y a quelque chose qui va m'empêcher d'entrer au paradis. Ou bien il a dit, si jamais il me demande ou la mordante d'entrer au paradis, Ensuite, qu'Allah Ta'ala dise, attendez, il y a quelqu'un qui ne va pas rentrer, il a dit, j'ai peur que ce soit moi. Donc je dis, les gens qui craignent Allah Subhanahu wa Ta'ala, qui ont peur de lui, toujours ont peur de ne pas rentrer au paradis, et ont peur d'être jetés en enfer. Et le contraire est valable. Quand quelqu'un est pervers, quand quelqu'un yani, ne fait pas les obligations, quand, il y a toujours Shaitan qui lui dit, tu es mashallah. De toute façon, on va arriver à ça, inshallah ta'ala. Donc je disais, Omar al-Khattab a souhaité que sa mère ne l'ait jamais mise au monde. Et il y a beaucoup de salafs qui ont souhaité aussi ça. Il y a beaucoup de salafs qui ont souhaité aussi ça et qui ont souhaité que s'ils n'avaient pas existé, tellement ils ont peur, yani, de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci, ça me rappelle un peu, non, ça me rappelle un peu ce qu'a dit Maryam. Ce qu'a dit Maryam lorsque elle est tombée enceinte, que Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans le Coran lorsqu'il a dit فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Puis les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier. Et elle dit, malheur à moi, ah, si j'étais morte avant cet instant. C'est-à-dire, elle demande à Allah que je fusse morte. Elle souhaite, ah, si j'étais morte avant cet instant et que je fusse totalement oubliée. Cela ne veut pas dire que c'est permis de demander la mort quand on a un malheur ou un mal ou une maladie. Car le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam est clair qu'il est interdit de demander la mort si un malheur nous atteint. Et ici, vous avez remarqué avec moi qu'elle n'a pas demandé la mort. Mais elle a demandé que si, yani, si Allah subhanahu wa ta'ala, yani, avait accepté d'elle, ou la lui aurait donné, yani, qu'elle choisisse, alors elle aurait choisi qu'elle soit morte avant cet instant. Arrive. Non. Donc il y a une différence entre quand j'ai un malheur, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de mourir, ou bien que je souhaite que je sois mort dans le passé, pas maintenant. Et c'est comme lorsque, par exemple, Ibrahim dit, wa tawaffana muslimin, ou bien Youssouf dit, wa tawaffana muslimin. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te faire mourir musulman. Ça ne veut pas dire que tu as demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de te faire mourir à cause d'un mal. Non, tu as souhaité mourir musulman, comme quelqu'un souhaite mourir martyr. C'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est que lorsque une personne a une maladie ou un malheur, elle demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui ôter son âme. Al-Muhim, Ibn Omar, son fils, le fils de Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, rapporte. Il a dit, la tête de Omar radiyallahu ta'ala anhu, quand on l'avait poignardé, vous savez qu'il est mort, assassiné son père. Il a dit, la tête de Omar, radiallahu ta'ala anhu, reposait sur mon giron. Et il dit, oh Abdullah, Abdullah c'est son fils, Abdullah ibn Omar, oh Abdullah, pose ma tête sur le sol. Il a dit, j'ai alors rassemblé mon vêtement et je l'ai mis sous sa tête. Yani, pour ne pas poser sa tête à même le sol. Mais mon père me dit, pose ma tête sur le sol, que tu perdes ta mère. Tu lui as dit, malheur à Omar et malheur à sa mère si Allah ne lui pardonne pas. Donc celui-là, il a été poignardé et son fils est venu vers lui. Il a posé sa tête sur ses genoux. Il n'a pas accepté. Il lui a dit, pose ma tête sur le sol. Son fils alors a mis sa tête sur des vêtements. Ses vêtements, il lui a dit non, sur le sol. Pourquoi? Yani, c'est la, tout ce qu'il y a de plus, yani la modestie. Yani, la modestie et la peur d'Allah Ta'ala à un point que, yani, mets-moi par terre. Je voudrais, yani, être par terre. Peut-être qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala fera descendre sur moi, yani, sa miséricorde. Naam. Younous rapporte, rahimallah, il a dit, Al-Hassan Basri a dit. Al-Hassan, c'est Al-Hassan Basri. Il a dit, Al-Hassan a dit, par Allah, le croyant ne se lève et ne se couche qu'empli de tristesse. Par Allah, le croyant ne se lève et ne se couche qu'empli, c'est-à-dire rempli de tristesse. Ainsi, on le voyait, c'est-à-dire Al-Hassan, on le voyait quasi continuellement comme un homme frappé par un malheur. quand tu rencontrais Al-Hassan al-Basri, le grand tabi'i radiyallahu ta'ala anhu, si tu ne le connaissais pas, tu croirais que c'est un homme qui est continuellement frappé par un malheur, tellement tu le vois triste, tellement tu le vois triste. Et bien sûr, triste pourquoi? Triste, c'est pas parce que il est pauvre, ni parce qu'il n'a pas construit une grande villa. Non. Triste, yani de peur. De peur, yani comment demain je vais rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et j'ai pas fait ce qu'il m'a dit de faire parfaitement et j'ai fait des péchés, ceci, cela, naam. Alors tu le trouves toujours triste, toujours triste. Naam. Bishr ibn al-Mundhir rapporte. Bishr ibn al-Mundhir rapporte. Une seconde avant cela, naam. Il a dit, j'ai vu l'Aouzaï, rahimahullah, quasiment aveugle, en raison du recueillement. Il passait la nuit à prier, réciter le Coran et pleurer. Et sa mère cherchait son lieu de prière et le trouvait humide, des larmes versées dans la nuit. Bishr ibn al-Mundhir rapporte, il a dit, j'ai vu l'Aouzaï, rahimahullah, le grand imam, quasiment aveugle, en raison du recueillement, car il passait la nuit à prier, réciter le Coran et pleurer. Et sa mère cherchait son lieu de prière et le trouvait humide, des larmes versées dans la nuit. Naam. Pour comparer, yani, comment étaient les salafs et comment que nous sommes nous. Eux, ils passaient la nuit à prier, réciter le Coran et pleurer. Et beaucoup de nous, ou là d'entre nous, passent la nuit avec la télévision. Bien, passent la nuit avec des choses, yani, qui n'ont rien à voir avec. Si au moins c'était des choses, yani, permises. Mais des fois avec des choses de haram, wal-iyadu billah. Comme certains qui passent la nuit, à quoi? Dans le chatting. Naam. Ils passent la nuit avec des filles, ou bien des filles avec des garçons. Peut-être toute la nuit. Naam. Jusqu'à ce que le soleil se lève. Passe la nuit à parler, à dire je ne sais pas quoi, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver. Abdullah ibn Umayr, rahimahullah, a dit, préférez, c'est-à-dire vous, hein, préférez la gêne vis-à-vis d'Allah à la gêne vis-à-vis des gens. Naam. C'est un conseil qu'il donne. Il dit, préférez la gêne vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala à la gêne vis-à-vis des gens. Pourquoi? Il y a des gens qui ont de la gêne vis-à-vis des gens. Mais quand ils sont seuls, par exemple, ils oublient la gêne vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Il y a des gens qui, lorsqu'ils rencontrent les gens, ils se montrent qu'ils sont mashallah, qu'ils sont pieux, qu'ils ne disent pas n'importe quoi, qu'ils sont contre ceci, contre cela. Naam. Et quand ils sont seuls, ils sont gênés de faire mille et une choses qui sont interdites. Qui sont interdites. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit istahyu min Allah haqq al-haya. C'est un hadith bon. Il a dit istahyu min Allah haqq al-haya. Ils lui ont dit ya Rasulallah, inna nastahi haqq al-haya, alhamdulillah. Il a dit, c'est-à-dire dans une autre version aussi il a dit, naam, al-haya, man istahya min Allah haqq al-haya, falyahfadh ar-ra's wa ma wa'a. وليحفظ البطن وما هوى وليذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. الشيخ الألباني دي حسن فوق حديث 935 صحيح الجامع. Est-ce que vous l'avez en arabe? Est-ce qu'il s'est affiché ou pas? Car personne n'a écrit numéro 1. الحمد لله. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, donc, soyez pudiques envers Allah d'une vraie pudeur. Ils dirent, ô prophète d'Allah, nous sommes certes très pudiques. Alhamdulillah. Il répondit, non, ce n'est pas cela. Mais la pudeur, la vraie envers Allah, c'est de préserver la tête et ce qu'elle englobe. De préserver le ventre et ce qui l'entoure. De se rappeler la mort et la dégradation dans la tombe. Et celui qui aspire à l'au-delà délaisse les parures d'ici-bas. Celui qui a fait cela a vraiment été pudique envers Allah. Allahu Akbar. Yani, c'est pas facile de dire que j'ai honte d'Allah et je suis pudique. Non, c'est pas facile. Même les sahabas ont dit, ya Rasulallah, on est pudique. Il a dit, c'est pas cela. Il a dit, pour être pudique envers Allah subhanahu wa ta'ala et avoir honte de lui et se sentir gêné, il faut quoi? Il faut préserver la tête et ce qu'elle englobe. La tête, qu'est-ce qu'elle englobe? Les yeux, la bouche, les oreilles, le nez. Donc, tu dois préserver tes yeux et ne voir de tes yeux que le halal. Tes yeux ne t'appartiennent pas. C'est une amana que Allah Ta'ala t'a donnée. Naam. Et il va les reprendre et il va les questionner demain. Qu'est-ce que vous avez vu? Dites qu'est-ce que vous avez vu. Il parle aux yeux. Naam. Et ils vont témoigner contre nous. Naam. Tu as la bouche. La bouche, c'est une amana pour que tu puisses vivre, pour parler. Naam. Demander des choses dont tu as besoin. Mais surtout, surtout, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Pour dire Allahu Akbar, pour prier, pour faire tashahhud, pour blâmer le condamnable, apprenez le bien, afwan, pour mille et une choses, naam. Donc, ça ne nous appartient pas aussi. Si on préserve ça, on préserve aussi notre nez, naam, on va sentir avec lui que seulement le halal. Et on a, qu'est-ce qu'on a aussi dans la tête? On a l'esprit, naam. On pense choses bien aux choses permises, naam. Là, yani, ça veut dire que, ça veut dire que, on a honte d'Allah subhanahu wa ta'ala, on est pudique de la vraie pudeur. Ensuite, il a dit, c'est de préserver le ventre et ce qui l'entoure. Tu préserves ton ventre. Tu n'y fais rentrer que ce qui est halal dans ton ventre. Tu n'y fais rentrer que ce qui est halal. Naam. Il a dit, ce qui l'entoure. Ce qui l'entoure, les savants ont dit, c'est aussi les parties intimes. Car ça a une relation avec le ventre. C'est pas loin du ventre. Il a dit, c'est la chose la plus importante à préserver. Celui qui a honte d'Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas la zina. Celui qui a honte d'Allah subhanahu wa ta'ala ne montre pas. C'est pas seulement ne fait pas la zina. Mais ne montre pas ses parties intimes à quelqu'un qui lui est interdit de les voir. Naam. Quelqu'un qui est pudique ne montre même pas ses parties intimes ni à son père, ni à sa mère, ni à son frère, ni à sa sœur. Qu'en est-il à un étranger ou bien une étrangère? Ils ont dit aussi, ce qui a rapport avec le ventre, ils ont dit les mains et les pieds. Car, naam, ça entoure le ventre. Ils ont dit avec les mains, on ne doit prendre que ce qui est halal. Ne toucher que ce qui est halal. Ne donner que ce qui est halal. Et aussi avec les jambes et les pieds. On ne doit marcher que là où Allah subhanahu wa ta'ala aime qu'on y va. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne doit jamais nous trouver dans un endroit qu'il déteste. C'est pas terminé. Tout cela pour dire, pour pouvoir dire, je suis pudique envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, bon, je repose le hadith ici, il a dit, voilà, il a dit, ensuite, car quand vous écrivez oula, ça monte, hein. Et c'est pas terminé, il a dit, et de se rappeler la mort et la dégradation. Naam, de se rappeler la mort et la dégradation. Comment qu'on devient quoi? On devient yani, une charogne, ensuite on devient de la poussière. Même les os deviennent de la poussière, subhanallah l'adem. La dégradation, il faut se rappeler de la mort et de la dégradation. Ça rappelait tout le temps. Ensuite, il a dit, et celui qui aspire à l'au-delà, délaisse les parures d'ici-bas. Ben, celui qui a fait cela a vraiment été pudique envers Allah. Celui qui aspire à l'au-delà doit délaisser les parures d'ici-bas. L'au-delà, et le bas monde ne peuvent jamais y aller marcher ensemble. Ils sont, c'est-à-dire l'au-delà et le bas monde, ils sont inconciliables. Les savants disent, ce sont comme deux co-épouses. Tu ne peux jamais concilier entre les deux. Tu ne peux jamais ravir les deux. Toujours, tu ravis l'une au détriment de l'autre. Non, toi aussi. Si tu veux ravir l'au-delà, quand je dis l'au-delà, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois mettre en colère le bas monde. Et si tu veux ravir le bas monde, tu vas mettre en colère Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'au-delà. Naam. Ça marche jamais ensemble. Donc, c'est pas possible que quelqu'un aspire à l'au-delà et ne pense qu'à l'au-delà et tu le trouves dans cette dunya, subhanallah al-azim, il a toutes les parures, yani, imaginables. Du matin au soir, il court derrière les parures de la dunya. Et il te dit, moi je pense à l'au-delà, je pense à la dégradation, et je me prépare pour l'au-delà. C'est pas possible. Ces choses-là, te détournent de l'au-delà. On ne dit pas c'est haram. On n'a pas dit c'est haram. On a dit ça détourne. Regardez pourquoi dans la mosquée c'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Normalement, c'est tel qu'on devrait orner au maximum et remplir de parures. Le contraire. La maison d'Allah doit être la plus simple. La plus simple. Naam. Pourquoi? C'est comme il a dit ici dans le hadith. Naam. Nous, on est venu ici pour prier. On est venu pour penser à ce qui nous attend dans la tombe. Penser à ce qui nous attend dans l'au-delà. Penser à la rencontre d'Allah. Maintenant, si tu vas nous remplir la mosquée de lampes et de je ne sais pas comment ça s'appelle, de spots ou je ne sais pas quoi, et des choses, et des flashs, et je ne sais pas quoi. Yani, khlas, on n'est plus dans une mosquée. Plein de glace et plein de. Certains gens, subhanallah al-azim, des gens de la masse, des pauvres, hein, des, yani, ils sont nos frères, des gens de la masse, m'sakin, là. Attendez, on me demande de donner le hadith en arabe. Je le donne une deuxième fois en arabe. Voilà. Donc, quand ils font partie du comité de la mosquée, ils n'ont pas de science, ils ont quoi? Ils ont la sincérité, l'amour d'Allah, mais ils n'ont pas de science. C'est dommage. Qu'est-ce qu'ils veulent et qu'est-ce qu'ils font? Avec l'argent qu'ils collectent, subhanallah al-azim, ils croient qu'ils font quelque chose de bien. Et ils vont commencer à parer la mosquée. Plein de faïence, plein de dalles de sol. Et ils vont commander des lustres de je ne sais quel pays. Des États-Unis ou je ne sais pas quoi. Des lustres qui coûtent des millions. Naam. Et ils vont faire venir des Marocains qui sont spécialistes dans la sculpture. Et ils vont sculpter quoi? Le plafond de la mosquée. 1 mètre carré, je ne sais pas combien d'euros. Et ils croient qu'ils font quelque chose de bien. Ça? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Cheikh Al-Albani a dit de ce hadith qu'il est bon ou bien sahih. Qu'est-ce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit: Ida hallaytum masahifakum wa zakhraftum masajidakum fadamaru alaykum. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam: si jamais vous allez, yani, comment qu'on dit ça? Attendez, en ce qui concerne le Coran, il a dit, si vous trouvez le mot, vous me le dites. En ce qui concerne le Coran, il a dit, vous allez le faire de lui une parure comme ça, yani, le paré, voilà, le paré d'argent ou bien d'or, orné, vous allez l'orner d'argent et d'or. Il y a des gens qui font comme ça. Il dit, le Coran, c'est le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, subhanallah al-azim. Moi, si je dépense dans le Coran. Et il va le remplir d'or, par exemple, et le couvrir d'or et d'argent. Le prophète Hassan, il a dit, si vous faites cela pour le Coran, ou bien, zakhraftum, ou bien vous allez parer vos mosquées, et les orner, et les remplir d'or, etc. Il a dit, faddamar alaykum. Il a dit, il a fait des doigts pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous détruise. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous détruise. Donc, que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Peut-être quelqu'un va dire tout à l'heure dans les questions pourquoi en Arabie Saoudite la mosquée elle est très belle, elle est pleine d'or, etc. Al-Mouhim. Maintenant, on revient à ce qu'on disait. Non. Al-Hassan al-Basri, toujours, rahimahullah. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, a dit. Non, Hassan Basri a dit, le croyant est l'homme qui agit le mieux et celui qui éprouve le plus de crainte. Même s'il dépense une montagne d'argent, il ne se sent pas à l'abri d'être désigné pour être châtié. Sa rectitude et sa bonté ne cessent de croître sans que cela n'augmente également sa crainte. L'hypocrite, lui, qu'est-ce qu'il dit? L'hypocrite lui dit, les gens sont nombreux. On me pardonnera. Et je ne suis pas trop mal. Ainsi, il agit mal et porte de faux espoirs en Allah subhanahu wa ta'ala. Je répète ce qu'a dit Hassan al-Basri. Il a dit, le croyant, alhamdoulilah, le croyant est l'homme qui agit le mieux. Pourquoi? Et c'est celui qui éprouve le plus de crainte. Il a dit, même s'il dépense une montagne d'argent, il la dépense. Fi sabilillah, quand même, il ne va pas se sentir à l'abri d'être désigné pour être châtié demain. Non. Il a dit, sa rectitude et sa bonté ne cessent de croître sans que cela n'augmente également sa crainte. Non. Ce n'est pas comme l'hypocrite. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, les gens sont nombreux. On me pardonnera. Et d'ailleurs, je ne suis pas trop mal. Ainsi, il agit mal et pour de faux espoirs en Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui me plaît ici, c'est ce qu'a dit l'hypocrite. Il a dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, les gens sont nombreux. Alors que le vrai croyant, malgré s'il dépasse, s'il dépense une montagne, yani en argent ou en or, il a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, s'il y a quelqu'un qui va être châtié demain, c'est moi, pas les autres. Tandis que l'hypocrite, c'est le contraire. Il ne dépense rien et ne fait pas ses obligations comme on doit les faire. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, les gens sont nombreux. Si tu lui dis, par exemple, pourquoi tu fais cela, tu risques d'aller en enfer ou là, il te dit, les gens sont nombreux. Est-ce que je suis le premier à aller en enfer? On est des milliers, on est des millions. Off, on va se tenir compagnie. Non. Il va dire, qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je brûle des mosquées? Est-ce que je tue les gens? Non, il te dit, maintenant c'est la mode, tout le monde fait ça. On ne peut pas s'en passer. Non. Et quand l'hypocrite a dit, les gens sont nombreux, c'est pour vous dire que, quand une personne, par exemple, fait un péché, quand une personne fait un péché, elle cherche toujours, par exemple, si elle est seule ou si les gens sont nombreux. S'il y a beaucoup de gens qui font le même péché, ça donne un petit apaisement dans le cœur, le fait de ne pas être seul à faire le péché. D'ailleurs, en arabe, on dit, attendez, minbeb, tibrid, nar, nar al-ma'siyah, ou hararat al-ma'siyah, bitta'assi bin-nadir, bitta'assi bin-nadir. C'est-à-dire, par exemple, je donne l'exemple. D'ailleurs, pourquoi je donne l'exemple? Quand les trois sahaba radiyallahu ta'ala anhum, quand Ka'b ibn Malik n'est pas parti à Ghazwat Tabuk, il a retardé, il n'est pas parti à Ghazwat Tabuk, à la bataille de Tabuk. La première des choses qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé le lendemain, dans le village ou la ville où il était, à Médine, il a demandé, est-ce qu'il y a des gens aussi qui ne sont pas partis? On lui a cité deux sahaba. On lui a cité Hilal, comment il s'appelle, Oumiya, attendez, Al-Muhim, deux sahaba. Je ne me rappelle pas de leur nom, mais on lui a cité deux autres sahaba qui n'étaient pas partis. Des sahaba, mashallah. Attendez, j'aime trouver leur nom. Hein. Hilal ibn Oumiya, attendez. Naam, Morara ibn Rabi' et Hilal ibn Oumiya. Naam, ce sont eux, inshallah ta'ala. Donc, pourquoi il a demandé, est-ce qu'il y a des gens aussi qui ne sont pas partis faire yani à la bataille? Pourquoi il a demandé? Comme ça, quand il sait qu'il y a d'autres qui ne sont pas partis, ça apaise un peu le cœur. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, quand quelqu'un fait un péché ou là, il ne voudrait pas qu'il soit seul. Car quand on est nombreux à le faire, on peut yani se. Comment dire yani on peut. Ça nous apaise un peu. Ça nous apaise un peu. Ce n'est pas comme une personne qui est la seule à faire le péché. Alors les hypocrites disent, on est nombreux à faire des péchés, yani on n'a pas peur. Non. Mais ce que je veux dire ici, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a montré dans un verset que chez lui, ce n'était pas la même chose. Ici, si ça apaise le fait d'être nombreux à avoir fait le même péché, quand on rencontre Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas du tout la même chose. Il a dit dans le Coran, ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. Aujourd'hui, il ne vous profitera en rien du moment que vous ayez été injuste, que vous soyez associé dans le châtiment. Donc, il a dit aujourd'hui, il ne vous profitera point ce jour-là. Ce jour-là, c'est-à-dire aujourd'hui, quand vous m'avez rencontré, il ne va rien vous être utile ni vous profiter si vous avez été injuste, vous avez fait des péchés, rien ne va vous profiter que vous soyez associé dans le châtiment de l'enfer. C'est-à-dire, Yom al-Qiyama. Si Allah subhanahu wa ta'ala dit à une personne, rentre en enfer, c'est pas comme ici, elle va dire, elle peut pas dire là-bas, ah, alhamdoulilah, nous sommes nombreux en enfer. Nous sommes 1000. Ah, alhamdoulilah, il y a mon père avec moi en enfer. Alhamdoulilah, il y a mes voisins en enfer. Non. Là-bas, nafsi, nafsi. Là-bas, que tout le monde soit avec toi en enfer, que ton mari soit avec toi, que ton épouse, que tes enfants, que jamais ça va te profiter. Tu seras châtié, tu seras dans la torture, tu souffriras. Mais dans cette vie, non. Dans cette vie, si on te rentre, jamais on te fait rentrer, par exemple, en prison. Tu trouves là-bas des gens que tu connais, tu dis, Mashallah, Alhamdoulilah, tu te sens apaisé. Si tu trouves ta famille, c'est encore mieux. Mais en enfer, non. Allah Ta'ala dit, il ne vous profitera point ce jour-là. Du moment que vous avez été injuste, vous avez fait des péchés, que vous soyez associé dans le châtiment. Naam. طيب أبو إدريس الخولاني رحمه الله أدي une phrase la phrase que je vais dire me plaît beaucoup si c'était possible de l'écrire avec comment on dit en arabe min dahab avec de l'encre mais pas de l'encre qu'on jette si on pouvait l'or, on pouvait le faire fondre Et écrire avec, j'aurais écrit avec cette phrase que je vais dire. Qu'a dit Abu Idris al-Khawlani rahmallahu. Il a dit, un cœur pur dans un vêtement sale est meilleur qu'un cœur sale dans un vêtement propre ou pur. Allahu Akbar. Un cœur pur, mais, ma'alish, dans un vêtement sale, c'est mieux qu'un cœur sale dans un vêtement propre ou pur. Donc, le cœur pur, dans un vêtement sale, ça peut être le croyant. Des fois, il est pauvre, il a des vêtements déchirés, des vêtements sales peut-être, mais son cœur est pur. Il adore Allah, il est sincère avec Allah, il est sincère avec les gens. Naam. Alors que l'hypocrite, tu le trouves dans un vêtement, masha'Allah. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ Allah ta'ala a dit, et si tu les vois, c'est-à-dire les hypocrites, leurs corps vont te plaire. De par la taille, de par ils sont assez gros parce qu'ils mangent bien, ils sont bien habillés, subhanallah l'adhim. Je disais l'hypocrite, un vêtement propre, mashallah, mais un cœur sale. Un cœur, yani, sale, ou l'ayadu billah. Naam. Ubayd ibn Umayr, rahimahullah, a dit, fait partie de la véracité et de la bonté de la foi que d'accomplir parfaitement les ablutions dans les situations où cela est désagréable. Je répète, fait partie de la véracité et de la bonté de la foi. Que quoi? Que d'accomplir parfaitement les ablutions dans les situations où cela est désagréable. Comme par exemple quand il fait froid. Non. C'est pas interdit de faire des ablutions avec de l'eau chaude ou de l'eau tiède. Non. Mais des fois, par exemple, il n'y en a pas. Là, il n'y a pas d'eau chaude. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu ne vas pas prier? Non. Tu vas faire, mais c'est désagréable pour toi. Mais dans ce cas-là, subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il y a un désagrément, un embarras. Donc, il va quoi? Il va doubler les récompenses. Subhanallah, l'adhim. Naam. Allah ta'ala sait que c'est difficile dans cette situation-là. Alors, les récompenses vont doubler. Il a dit... Et fait partie de la véracité toujours et de la bonté de la foi qu'un homme s'isole avec une belle femme et la laisse partir uniquement pour Allah. Fait partie de la véracité et de la bonté de la foi qu'un homme s'isole avec une belle femme et la laisse partir sans la toucher uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas parce qu'il veut pas, c'est pas parce qu'il peut pas, il est malade ou là. C'est pas parce qu'elle n'est pas belle. On a dit qu'elle est belle. C'est pas parce qu'elle veut pas. Elle aussi, elle veut. Mais il la laisse partir uniquement par peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme les trois personnes, comme dans Sahih al-Bukhari, que vous connaissez tous le hadith, qui sont rentrés dans la grotte. Et la grotte a été bouchée par un grand rocher. Et ils ont commencé, quelqu'un a dit, on doit faire des doigts pour sortir. Comment faire pour sortir là, abandonné dans la montagne? Comment qu'on va faire? Ils ont dit, on a une seule solution. Il n'y a ni téléphone portable, ni rien. C'est les doigts. L'un des trois. On va parler du troisième parce que ça a rapport avec le cours. Il a dit, Ya Allah, tu sais que j'avais une cousine que j'aimais beaucoup, beaucoup. Que j'aimais comme un homme aime sa femme ou plus. Ou aime la femme ou plus. Et que plusieurs fois, je lui avais demandé de faire le haram, elle refusait. Jusqu'au jour où elle est tombée en panne. Vraiment, yani la famine. Et elle est venue me voir pour m'emprunter, pour que je lui prête de l'argent. Elle est venue me voir pour emprunter de l'argent. Et que je lui avais dit que je te donnerai 1000 dinars. Vous savez, 1000 dinars, un dinar en or. Je te donnerai 1000 dinars si tu me laisses faire le haram. Elle a dit, n'ayant plus de solution que celle-là, lui il dit que, alors elle a accepté, n'ayant plus de solution que celle-là, elle a accepté. Il a dit, Ya Allah. Ensuite, quand je suis arrivé au moment où faire la chose intime, elle m'a dit, ne crains Allah et ne fais cela, yani, que dans le halal. Crains Allah et ne fais cela que dans le halal. Dans le halal, ça veut dire par le mariage. Mais elle lui a dit, crains Allah. Il a dit, quand j'ai entendu la phrase, crains Allah, je me suis levé, je l'ai laissé et je lui ai laissé les 1000 dinars. Là, il a fait la doua, il a dit, Ya Allah. C'est-à-dire, vous savez ce que j'ai dans mon nefs, je ne sais pas ce qu'il y a dans votre nefs. Ya Allah, si je l'ai délaissé, je n'ai pas fait le haram avec elle, et j'ai laissé les 1000 dinars, par ta crainte, car j'ai eu peur de toi, alors Ya Allah, faites-nous une solution. Une solution à yani, la difficulté où on est là, yani, envahi, comment on dit, enseveli, yani, sous la terre. Et, alhamdoulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, yani, leur a ouvert, yani, a éloigné d'eux, yani, le rocher, et ils ont pu sortir de la grotte et aller chez eux. Donc, lui, il voulait beaucoup cette femme, cette cousine. Et l'occasion en or est venue. Et, alhamdoulillah, il n'a pas fait. Pourquoi? Car elle lui a dit, crains Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est pas parce que lui, il voulait pas ou là, mais parce qu'il a. Il avait peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pouvoir s'arrêter et ne pas terminer cette chose comme ça, yani s'arrêter en plein milieu, c'est vraiment difficile, surtout pour un homme. C'est vraiment difficile de s'arrêter comme ça, à mi-chemin, si ce n'est quoi? Si ce n'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si ce n'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Muhim, et de ce hadith, les savants ont pris que, on déduit que quand quelqu'un est dans la difficulté, alors qu'il fasse des doigts, en quoi? En demandant à Allah subhanahu wa ta'ala, yani en lui parlant de, ou là en invoquant certaines de ses bonnes œuvres. Comme celui-là, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala par cette œuvre qui est quoi? Qui est avoir délaissé le haram pour Allah. Avoir délaissé le haram pour Allah. Et si tu es sincère, Allah subhanahu wa ta'ala te fera une solution bi'idhnillahi ta'ala. Yahya ibn Mu'adh al-Razi rahimahullah a dit, en fonction de ton amour pour Allah, les gens t'aimeront. En fonction de ta crainte d'Allah, les gens te révéreront. Révéré, na'am. Et en fonction de ta préoccupation concernant l'ordre d'Allah, les gens se préoccuperont de toi. Je répète, en fonction de ton amour pour Allah, les gens t'aimeront. Ah, tu as aimé Allah subhanahu wa ta'ala. Vous connaissez le hadith. Allah ta'ala va appeler Jibril et va lui dire, Ya Jibril, j'aime X. Il va te citer par ton nom. Ya Jibril, aime-le. Jibril va l'aimer et va appeler les anges. Il va leur dire, Allah a aimé X, il vous demande de l'aimer. Allah ta'ala va descendre son amour sur terre, comme il a dit. On l'a vu la fois passée. Donc, si tu vas aimer Allah, les gens vont t'aimer. Quels gens? Ce n'est pas les alcooliques et les clochards. Non, ce n'est pas les pervers. Les pieux vont t'aimer. Ceux qui sont sincères avec Allah subhanahu wa ta'ala vont t'aimer. Au point Yani où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, il a dit, en parlant des élus d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que Awliya Allah alladhina idha ru'u dhukira Allah. Vous n'avez pas remarqué que vous, des fois, vous rencontrez une personne, subhanallah, à peine quand vous voyez la personne, vous ne la connaissez même pas, vous sentez dans votre cœur que cette personne est une personne pieuse. Naam. Celle-là, en fait, c'est une personne aimée par Allah subhanahu wa ta'ala. Aimée. C'est ce qu'on appelle un wali. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit awliyaullah, il a dit les aimés d'Allah, les élus d'Allah, les bien-aimés. Il a dit ce sont ceux qui, lorsqu'on les voit, on invoque Allah. Des fois, toi, tu vois une personne, tu voulais. Et des fois, tu vois une personne, tu l'aimes, tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala. Tu souhaiterais que cette personne soit un ami à toi. Tu souhaiterais connaître cette personne. Tu souhaiterais t'asseoir avec elle. Tu souhaiterais, naam, en la voyant seulement, yani en sentant d'elle que c'est une personne pieuse. Surtout si elle commence à parler avec toi et que ça renforce yani, ce que tu as pensé d'elle. Naam. Il a dit donc, en fonction de ton amour pour Allah, les gens vont t'aimer. Maintenant, en fonction de ta crainte d'Allah, ta crainte, les gens vont te révérer. Non, les gens vont te révérer, te mettre vraiment dans un statut haut. Non, quelqu'un qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah al-azim, les gens le craignent. Le craignent pas dans le sens dont ils ont peur de lui, mais le respectent beaucoup. C'est la crainte d'Allah qu'il a dans le cœur qui fait quoi? Que les gens tremblent devant toi. Est-ce que toi, par exemple, je donne un exemple, est-ce que toi, par exemple, si tu vois par exemple Cheikh Fawzan Asi ou la Cheikh Rabi' ou la Cheikh Ibn Uthaymeen, s'il était vivant, Allah yarhamou, yani tu vas facilement comme ça, tu vas l'enlacer, tu vas le, yani, comme un ami, tu vas lui parler comme ça. Non. Tu as, yani, tu sens quelque chose. Tellement lui il craint Allah que toi, yani, tu le respectes à un point très 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 grand. Non. Que toi-même tu le crains. C'est pas facile, yani, de parler avec lui, de rire avec lui, de rigoler, de faire une blague. C'est pas possible. Non. Pourquoi? Tellement lui il craint Allah subhanahu wa ta'ala, tellement nous, yani, on va le respecter. Et la troisième, il a dit, et en fonction de ta préoccupation d'Allah, alors les gens vont se préoccuper de toi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Plus tu ne donnes de l'importance qu'à ce qu'a dit Allah et ce qu'a dit son prophète. Je ne suis occupé que par cela, jour et nuit. Je ne pense qu'à cela. Je ne pense qu'à comment ravir Allah, comment prier à l'heure, comment ceci, comment cela. Allah Ta'ala va quoi? Va ordonner à certains gens de s'occuper de toi. C'est pour ça qu'il a dit dans le Coran, il a dit... Dommage, j'ai pas pensé à ce verset, sinon je l'aurais cherché en arabe et en français. Si vous pouvez le trouver, vous me le donnez. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. Il a dit ordonne à ta famille la prière وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا et yani patiente et yani c'est pas comme on dit ordonne une fois et tu te tais. Non. Ordonne. Naam. Ordonne à ta famille la salat. Wastabir alayha. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Nahnu narzuquk. C'est nous qui te donnons la subsistance, le risque. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala parle de la salat, maintenant il parle de risque? Pourquoi? Car lorsqu'il a dit ordonne la salat à ta famille, il a dit après cela, yani wastabir alayha, c'est-à-dire fais-le tout le temps. Alors toi, tu vas dire, moi, si je fais tout ça tout le temps, qui va travailler? Qui va me nourrir? Qui va nourrir les enfants? D'où va venir la paix? Alors Allah Ta'ala dit directement, Nahnu narzuquk. C'est nous qui te donnons la subsistance. C'est nous qui te donnons le risque. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Occupe-toi de mes ordres. Ordonne à ta famille la prière et patiente. C'est nous qui donnons la subsistance. Barakallahu fikum. Donne la prière à ta famille et sois-y constant, toi-même. Nous ne te demandons pas de portion. C'est à nous de nourrir. Et quand on dit ici la salat, c'est tout. C'est pas seulement la salat. Naam. Fais ce que Allah Ta'ala t'a dit et sois constant. N'aie pas peur du risque. Ne dis pas si je fais ça, yani, je vais me noyer dans ceci, je vais pas travailler, je vais pas ceci. C'est nous qui te donnons à nourrir. N'aie pas peur. Allah Ta'ala dit dans le Coran, wa fis sama rizqukum wa ma tu'adun. Il a dit c'est dans le ciel. Wa fis sama. Sama c'est le ciel. Wa fis sama rizqukum. C'est dans le ciel que se trouve votre subsistance. C'est-à-dire c'est pas dans la terre. Pourquoi c'est pas sur terre? Pour que tu n'aies pas peur. Pour que tu dises, si c'est sur terre, j'ai peur de X ou Y, il va me prendre ma subsistance. Allah Ta'ala t'a dit, dors tranquille. Elle n'est pas sur terre ta subsistance. Elle est dans le ciel. Et si elle est dans le ciel, est-ce que quelqu'un des gens peut monter dans le ciel pour prendre ta subsistance? Ça veut dire qu'elle est entre les mains d'Allah, c'est tout. Elle est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il a dit dans un autre verset, il a dit. C'est un autre verset. Il a dit, cherchez le risque chez Allah. Et adorez-le. Adorez-le. Adorez Allah subhanahu wa ta'ala. Le risque est chez Allah. Il n'est pas chez les gens. Il n'est pas chez les gens. Dors tranquille. Non. Ensuite, Omar ibn Abd al-Aziz, rahimahullah, a dit, il a dit, celui qui craint Allah, celui qui craint Allah, Allah le fera craindre de toutes choses. Et celui qui ne craint pas Allah, alors il craindra toutes choses. Allahu Akbar, c'est vrai. Celui qui craint Allah, Allah fera craindre toutes choses de lui. Ça veut dire que celui qui craint Allah, tout le monde, n'am, alors le craindra. Craindra cette personne qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui craint pas Allah, alors comme châtiment, il va craindre toute chose. Naam, il aura peur de tout le monde et de toute chose. Pourquoi? Parce qu'il ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, il ne craint personne. Naam, il ne craint personne. Pourquoi? Parce qu'il sait que tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que mon but c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Alors que le contraire, celui qui ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala, vous le trouverez, hein, il craint tout le monde. Et si on parlait seulement de la maladie, celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, si n'importe quelle maladie la plus dangereuse qui puisse lui arriver, il ne va pas perdre le contrôle. Non. Il va avoir mal, mais il va patienter. Il va dire Qadarullah. Ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qadarullah ma shafa'al. Si Allah Ta'ala qui m'a donné cette maladie veut la reprendre, il va la reprendre même sans médicament. Même sans médicament. Même entre parenthèses, si je dois, yani je dois me soigner. Mais même sans médicament, Allah Ta'ala peut la prendre. Mais celui qui craint pas Allah, il ne connaît pas. Non. Une petite maladie, et yani, il risque de se suicider pour une petite maladie. Qu'en est-il si on lui dit tu as le cancer? Non. Alhamdulillah que Allah subhanahu wa ta'ala on l'a connu. Alhamdulillah que on connaît Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça la personne a un cœur apaisé. Elle sait que yani, tout ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, prédestiné 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Ibn Mubarak a dit, Ibn Mubarak rahimahullah a dit, compte parmi les plus grands malheurs, compte parmi les plus grands malheurs, de connaître de soi un manquement, puis de ne s'en soucier, puis de ne pas s'en soucier et de ne pas s'en attrister. Je répète, il a dit, rentre dans les plus grands malheurs. C'est quoi l'un des plus grands malheurs? C'est de connaître de soi un manquement et de ne pas s'en soucier et de ne pas s'en attrister. Allahu Akbar. Si la personne a vraiment des manquements, yani dans son dîn, et ni elle ne s'en soucie, ni elle s'en attriste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne, vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, comme dit Ibn al-Qayyim, l'a châtié dans cette vie avant l'au-delà. Subhanallah al-Azim. Comment? Tu fais des choses yani, monstrueuses et ni tu t'en soucies, ni tu t'en attristes. Allahu Akbar. tu fais des grands péchés. Et ni tu t'en soucies, ni tu t'en attristes. Il y a aussi, il y a plus grave que cela, il y a plus grave que cela, c'est de ne pas voir, non, c'est de ne pas voir que je suis en train de faire un péché, par exemple. C'est de ne pas voir que je suis en train, ou de ne pas sentir, ou de ne pas m'éveiller à ce que je suis en train de faire un péché. Et il y a plus grave que cela, c'est quoi? Plus grave encore, c'est de voir ou là de sentir que je suis en train de faire un péché, de voir ou là de sentir que je suis en train de faire quelque chose, mais il me semble que c'est quelque chose de bien. Alors là, c'est vraiment grave. Donc les gens sont trois catégories. Celui qui fait par exemple le péché et qui ne remarque pas. Et celui qui ne le remarque pas du tout. Et le troisième, celui qui croit, qui fait le péché et qui croit qu'il est en train de faire quelque chose de bien. Celui-là, c'est très grave. Quand quelqu'un fait un péché et croit qu'il est en train de faire quelque chose de bien, il croit qu'il est en train de faire yani, un bien. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a renversé son cœur, l'iyadu billah. Ça, il croit que, entre dans le plus grand malheur, ne pas se soucier de ses péchés, de ne pas voir que nous commettons des péchés. Voilà. De voir ou de sentir de faire une chose et de ne pas faire la différence entre le bien. C'est pas non seulement faire, c'est pas seulement ne pas faire la différence, mais encore croire que le mal qu'on a fait est un bien. Si la personne atteint ce degré, l'iyadu billah, ça veut dire que Allah Ta'ala lui a renversé son cœur. Vous savez que les cœurs sont entre les doigts, deux doigts d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, il les renverse comme il veut. Et le dalil, que Allah Ta'ala renverse les cœurs au point où la personne va commencer à voir le mal, elle le voit un bien. C'est comme lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Naam, barakallahu fik ibn Muhammad, on va arriver à ce verset, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. C'est-à-dire, et nous renverserons leur cœur et leurs yeux pour ne pas y avoir cru la première fois et nous les laisserons marcher aveuglément dans leur tyrannie. Ce qui nous. Yani le cours ici, c'est quoi? Le témoin du cours. Et nous renverserons leur cœur et leurs yeux. Allahu Akbar. Certaines personnes, Allah Ta'ala, leur a renversé leur cœur et leurs yeux. Au point où la bid'a, ils voient que c'est une sunna. Le péché, ils voient que c'est un bien. C'est quelque chose de bien, non. Le munkar, le blâmable, ils voient. C'est quelque chose yani, qu'il faut prescrire au lieu de proscrire. Et comme ça, certaines personnes, khlas, ont un cœur renversé et même des yeux renversés au l'iyadu billah. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit dans le Coran, il a dit أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَأَهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. Il a dit Et quoi? Il a dit, celui à qui on a enjolivé sa mauvaise action au point qu'il la voit belle. Donc il y a des personnes, il a dit, à quelle ou là à laquelle on a enjolivé la mauvaise action au point où il la voit belle. Mais Allah égare qui il veut, ça veut dire il est égaré. Il guide qui il veut. Ensuite, il y a Mohammed, que ne se répondent donc pas en regret pour eux. C'est pas la peine de te répondre en regret pour eux. Allah est parfaitement savant de ce qu'il fabrique. Donc le cours ici, c'est quoi? Celui à qui on a enjolivé, nam, embelli sa mauvaise action au point où il la voit belle. A'oudou billah. Ça, c'est un châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour certaines personnes, yani, des choses très mauvaises, il va les enjoliver à leurs yeux, au point où ils vont voir qu'elle est belle. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Al-Kahf. Sourate Al-Kahf, il a cité ça aussi. Il a dit, الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Non, ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré, alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Ceux dont l'effort dans la vie présente, c'est un égarement, alors qu'ils croient qu'ils sont en train de faire du bien. Naam. Et il a dit aussi, فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون والعياذ بالله. Il guide une partie, tandis qu'une autre partie a mérité l'égarement. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris au lieu d'Allah les diables pour alliés. Et ils pensent qu'ils sont bien guidés. Ils pensent qu'ils sont bien guidés. Donc, ils pensent, et dans l'autre il a dit, ils s'imaginent faire le bien. Et comme ça. Donc, vous voyez que c'est pas toute personne qui dit que je suis sur le droit chemin, ça veut dire qu'elle est dans le droit chemin. C'est possible que cette personne soit égarée, qu'elle dise je suis dans le droit chemin. C'est pour ça que maintenant, si vous allez parler avec un rafidé, les chiites, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire c'est moi qui suis sur le vrai chemin. Moi, je suis de la famille du prophète. Et vous, vous êtes des égarés, vous. Les Al-Sunna, les Wahhabites, vous êtes des égarés, les Salafs, vous. Comme ça, ils pensent. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a renversé son cœur. Naam. Et comme ça, les Ahbash, comme ça, toutes les sectes égarées. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire ce n'est pas toute personne qui dit ou qui pense ou qui s'imagine qu'elle est dans la droiture que ça veut dire elle l'est. Mais il faut qu'elle le prouve. Il faut qu'elle prouve avec le Coran et la Sunna qu'elle est dans la droiture. Et que ce n'est pas le shaitan qui lui a embelli, yani le mal pour le voir en bien. Taïb. Où est-ce qu'on était? Naam. Mouwarriq al-ajili, al-ijli, rahimahullah, a dit, je n'ai trouvé comme exemple pour illustrer la situation du croyant que celui d'un homme sur un bout de bois au milieu des flots qui invoque Seigneur, Seigneur, afin qu'Allah le sauve. C'est comme ça le croyant. Tout le temps, il se croit. Il croit quoi? Il croit que, classe, il va être châtié et il va rentrer en enfer. Ce n'est pas comme les autres. Ils croient le contraire. Ils font du matin au soir des péchés et ils croient qu'ils seraient le premier à aller au paradis. Non. Le vrai croyant, du matin au soir, il a peur. Et, comme il dit ici, c'est comme s'il était, il y a un nez, le navire a coulé, tu es au milieu de l'océan, accroché à un bout de bois en train de dire Seigneur, Seigneur, sauve-moi. C'est comme ça que doit être le croyant. Ibrahim ibn Shayban a dit, lorsque la crainte d'Allah s'installe dans le cœur, elle brûle les lieux dédiés aux passions qui s'y trouvent. Elle en chasse le désir de ce bas monde et elle fait cesser la langue de mentionner cette vie. Naam, Allahu Akbar. Lorsque la crainte s'installe dans le cœur. Voilà des signes pour savoir, par exemple, si tu as la crainte dans le cœur ou pas. Regarde. Si la crainte s'installe dans le cœur, voilà ce qui doit se passer. Elle brûle les lieux dédiés aux passions qui s'y trouvent. Toutes les passions que tu avais dans le cœur vont être brûlées. Tu ne penses plus à faire le haram, à faire ceci, faire cela. Ensuite, Elle chasse du cœur le désir de ce bas monde. Non. Maintenant, elle ne pense plus au désir de ce bas monde. Mais du matin au soir, elle est en train de penser à quoi? Elle est en train de penser à se préparer pour l'au-delà. Moi, je prépare pour le paradis, pas pour le bas monde. Et troisièmement, elle a dit, et surtout ça, et cette crainte-là qui vient de s'installer dans le cœur, fait cesser la langue de mentionner cette vie. Fait cesser la langue de parler tout le temps de cette vie, de ce bas monde. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a-t-il pas dit dans un hadith authentique, il a dit, « Ekthiru min likri hadhim al-dhat » Il a dit, « Ekthiru » yani, « multiplier l'invocation, hein, le mentionnement de quoi ?» De celui qui détruit les passions, c'est-à-dire la mort. Comme ça a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit multiplier l'invocation de la mort. À chaque fois, Naam, tu es seul, que tu es dedans, que tu penses à la mort, à la mort, à la mort, à la mort, à la mort. Ça va te freiner. Ça va, yani, te permettre de faire sortir la dounia de ton cœur. Naam. Et les autres, c'est le contraire. Ils ne pensent que ce bas monde, ce bas monde, ce bas monde. Acheter ceci, acheter cela, construire ce lit, ceci, cela, du matin au soir, du matin au soir. Et Il meurt comme ça, sans s'être préparé et sans avoir jamais pensé à la mort. Et encore moins, sans s'être préparé. Non. Plus tu parles de la mort et tu penses à la mort, plus tu t'y prépares. Plus tu t'y prépares. D'ailleurs, il y avait un hadith que j'ai oublié. Attendez, quand il a dit. Non, c'est pour ça, quand on a demandé au prophète, on lui a demandé c'est qui l'acquiesce. L'acquiesce, c'est, si je puis dire en français, je ne sais pas si je vais trouver le mot en français, mais c'est un hadith authentique, l'Albanais a dit authentique. L'acquiesce, c'est, si je puis dire, débrouillard. Hein, celui qui se débrouille, qui sait aller vite, il a une voiture, il a ceci, il fait rentrer de l'argent. On lui a dit à Rasoulallah, c'est qui les débrouillards? L'acquiesce. Il a dit, Aktharuhum lil mawti dhikran. Il a dit, ce sont ceux qui, yani, invoquent la mort plus que les autres. Vous voyez, chez nous, le débrouillard, c'est celui qui, il peut te faire rentrer 1000 euros par jour. Ah, masha'Allah, c'est un débrouillard celui-là. Ah, masha'Allah. Yani, facilement, il te fait rentrer 1000 euros par jour. Oh, celui-là, c'est un vrai débrouillard. Le hadith a dit non. Il a dit, les débrouillards, ce sont ceux qui, yani, multiplient l'invocation de la mort. Naam. Il n'a pas terminé, il a dit, wa aktharuha isti'dadan laha. Wa aktharuhum isti'dadan laha. Et ce sont ceux qui, après avoir invoqué beaucoup la mort, s'y sont préparés. S'y sont préparés. Car ça ne sert à rien d'eux d'invoquer la mort et je ne sais pas, et d'aller boire l'alcool. Non, invoquer la mort et s'y préparer. Et s'y préparer. Naam. C'est un hadith authentique. Saïd ibn Joubir, rahimallah, dit, oh, il reste beaucoup. Hein. Je vais aller un peu vite. Saïd ibn Joubir, rahimallah, a dit, la véritable crainte consiste à craindre Allah azzawajal jusqu'à ce que ta crainte s'interpose entre toi et ton péché. Voilà, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais. La véritable crainte, c'est quoi? Consiste à craindre Allah azzawajal jusqu'à ce que cette crainte s'interpose entre toi et ton péché. Il a dit, c'est la véritable crainte. Ensuite, la véritable mention d'Allah Azzawajal, le dhikr, consiste en l'obéissance à Allah Azzawajal. Ainsi, celui qui obéit à Allah l'aura mentionné, alors que celui qui ne lui obéit pas ne l'aura pas réellement mentionné, même s'il multiplie les glorifications en lecture du Coran. Masha'Allah. Naam. Donc, la véritable crainte, naam, consiste à craindre Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce qu'il y ait entre toi et le péché quoi? Une barrière. S'il y a une barrière entre toi et le péché, ça veut dire que tu as vraiment craint Allah subhanahu wa ta'ala. Et la véritable mention d'Allah, dhikr Allah, quand tu dis moi je mentionne Allah, la véritable mention consiste en l'obéissance. Allah subhanahu wa ta'ala. Et toute personne qui a obéi à Allah, elle a mentionné. Non, toi quand tu obéis à Allah, ça veut dire au moins dans ton cœur, tu as mentionné Allah, ensuite tu es allé faire une obéissance. Il a dit, alors que celui qui ne lui obéit pas, ne l'aura pas réellement mentionné. Celui qui fait des péchés n'a pas réellement mentionné Allah, même si du matin au soir, il lit le Coran et ne cesse de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Non. D'ailleurs, ça me rappelle certains versets. Regardez par exemple le verset qui va venir pour prouver que si vraiment la personne a peur d'Allah, elle devrait s'éloigner des péchés. Ce n'est pas yani, seulement s'asseoir et dire Subhanallah, Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar du matin au soir, qu'on font les soufis. Ensuite, quand ils sortent dehors, yani, c'est plein de péchés. Non, c'est plein de péchés. Regardez lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit. وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وأثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى سورة النازعات الله تعالى دي l'enfer sera pleinement visible à celui qui regardera, c'est-à-dire demain. Allah Ta'ala va quoi? Va nous exposer l'enfer. Chacun va le voir. Il a dit, quant à celui qui aura dépassé les limites et aura préféré la vie présente, alors l'enfer sera ce refuge. Donc, quand Allah Ta'ala va faire venir l'enfer, il sera visible, il y aura deux sortes de gens. Le premier, celui qui a dépassé les limites tara et a préféré la vie présente. Alors celui-là, résultat, l'enfer sera son refuge. Deuxième. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Le deuxième, quant à celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur, il aura peur, il avait peur de comparaître devant son Seigneur, et il a préservé son âme de la passion, celui-là, le paradis sera son refuge. Le témoin, c'est quoi ici le témoin? Le témoin, quant à celui qui a peur, avait peur de comparaître devant son Seigneur, et à préserver son âme de la passion. Naam, c'est pas seulement il a peur, il faisait le haram. Non, il a peur, il a préservé son âme de la passion. Naha nafs anil hawa. Celui-là, alors le paradis sera son refuge. Donc ça ne sert à rien de dire j'ai peur. Naam, ou de larmoyer avec les yeux, si quoi? Si tu fais toujours les péchés. Naam, si tu fais toujours le péché. Ça ne sert à rien de larmoyer ou de dire et de crier. Tu prends un microphone ou là et tu cries, ou là un haut-parleur et tu cries j'ai peur d'Allah, j'ai peur, c'est pas vrai. Tu fais le péché. Donc, pour que le paradis soit ton refuge, il faudrait que, en ayant peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu aies préservé ton âme des passions. Ton âme, tu l'éloignes des passions. Celui-là, alors le paradis sera son refuge. Naam. Abu Ja'far ibn Abu al-Hussein disait au milieu de la nuit. Naam. Abu Ja'far ibn Abi al-Hussein ibn Ali ibn al-Hussein disait au milieu de la nuit. Il disait, Ya Allah, tu m'as ordonné et je n'ai pas obéi. Tu m'as réprimé, mais je n'ai pas cessé. Voici ton serviteur devant toi qui s'excuse. Ya Allah, tu m'as ordonné et je n'ai pas obéi. Tu m'as réprimé, mais je n'ai pas cessé. Voici ton serviteur devant toi qui s'excuse. Donc celui-là, qu'est-ce qu'il disait? Il disait au milieu de la nuit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire au moins si une personne fait des péchés, au moins si elle levait la nuit, si elle se levait la nuit et faisait des ablutions et priait et yani, se prosterner et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner. Au moins si elle faisait ça. Mais on parle des gens qui font des péchés, qui s'endorment jusqu'au matin, qui s'en foutent. Naam, ils disent, oh, on est nombreux, hein, on est nombreux, on sera tous en enfer. Hein, ça ne me fait pas peur. L'essentiel, je ne rentre pas tout seul en enfer. Comme ça, ils disent. Abu Usama rapporte, il a dit, Sofiane Thouri, rahimahullah, est tombé malade. Alors, j'ai porté ses urines à un docteur. Hein, pour les gens qui disent que c'est pas bien de se soigner. Voilà, Sofiane Thouri. Le imam des imams. Quand il est tombé malade, on a pris ses urines pour que le médecin les voit. Comme de nos jours, on fait les analyses. Alors, quand le médecin a vu l'urine, ou là, les urines de Sofiane Thouri, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est là l'urine d'un homme dont la tristesse, c'est-à-dire la crainte d'Allah, a fondu le foie, il n'a aucun remède. Naam. Cet homme n'a plus aucun remède. C'est la l'urine de quelqu'un dont la tristesse a fondu le foie. Allahu Akbar. C'est pour ça que Oussama rapporte, toujours de Sofiane Thouri, il a dit, quiconque voyait Sofiane Thouri pensait qu'il était dans une embarcation et craignait la noyade. On l'entendait la plupart du temps dire, Ô Seigneur, sauve-nous. Ô Seigneur, sauve-nous. Ô Seigneur, sauve-nous. Allahu Akbar. Du matin au soir, Ô Seigneur, sauve-moi. Ô Seigneur, sauve-nous. Ô Seigneur, sauve-nous. Naam, ils ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Muhammad rapporte, il a dit, Bakr ibn Abdillah, al-Muzani, invoqué en faveur de ses frères qu'il rencontrait en disant, qu'Allah nous accorde ainsi qu'à toi, l'ascétisme. Naam, l'ascétisme de celui qui peut commettre l'illicite et les péchés dans la solitude, mais qui sait qu'Allah le voit et ainsi le délaisse. Qu'Allah nous donne l'ascétisme de celui qui peut commettre l'illicite et les péchés dans la solitude, mais qui sait qu'Allah le voit, alors il les délaisse. Il ne fait pas de péché. Naam. On demanda Ata Suleyman, on lui demanda, pourquoi cette tristesse? Pourquoi cette tristesse? Il dit, malheur à toi. La mort est à mon cou. La tombe, c'est ma demeure. La résurrection, c'est ma station. Le pont de l'enfer, Sirat, c'est mon chemin. Et je ne sais pas ce qu'on va faire de moi. Et tu me dis pourquoi cette tristesse? Comment ne pas être triste pour un homme qui, la mort est à son cou, la tombe sa demeure, la résurrection sa station. Il doit passer sur le pont, sur Sirat. Et après tout cela, il ne sait pas ce qu'on va faire de lui. Comment qu'il ne sera pas triste? On rapporte que l'imam Ahmed, rahimahullah, l'imam Ahmed, très connu, disait, il a dit, la peur m'empêche de manger et de boire. Et lorsque je me rappelle la mort, je méprise tout ce bas monde. Il a dit, ce ne sont pas de réels aliments, de réels aliments et vêtements. Ce ne sont que peu de jours et rien n'est équivalent à la pauvreté. Non. Il a dit, la peur m'empêche de manger et de boire. Et lorsque je me rappelle la mort, je méprise tout ce bas monde. Je méprise tout ce bas monde. Ce ne sont pas de réels aliments et vêtements. Ce ne sont que peu de jours. Et rien n'est équivalent à la pauvreté. En fait, la pauvreté aide beaucoup, à quoi aide beaucoup la personne à, yani, à approcher vers Allah subhanahu wa ta'ala. Car la richesse, comme vous savez, elle peut être un frein. Elle peut être un frein. Surtout pour quelqu'un de faible, pour quelqu'un de faible. Yani, il va commencer à acheter des choses, à courir derrière des choses, à courir derrière la vie. Il a tellement d'argent qu'il va oublier Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il va pas fa faire des prières à l'heure, qu'il va pas faire l'aumône, qu'il ceci, cela. Non. On demanda. Une seconde. Non. Non. Muawiyah ibn Qurra, rahimahullah, s'assit avec un successeur au compagnon, Tabi'i. Et ils discutèrent. L'un dit, je n'espère et ne crains rien. L'autre lui dit, celui qui espère une chose la recherche, et celui qui craint une chose la fuit. Je ne peux imaginer un homme espérant une chose sans la rechercher, et je ne peux imaginer un homme craignant une chose sans la fuir. Omar ibn Abdelaziz rahimahullah a dit, l'homme pieux est retenu par des brides. Il ne peut faire tout ce qu'il veut. Naam, je répète, l'homme pieux est retenu par des brides. Il ne peut faire tout ce qu'il veut. Les brides, vous connaissez, c'est quoi? Le cheval, hein? Il a des brides pour le faire tourner à droite, pour le faire tourner à gauche. Naam. L'homme pieux, c'est la même chose. Naam. Il a des brides, c'est ce qu'on a entre, à droite et à gauche des yeux pour ne voir que devant. L'homme pieux ne peut faire tout ce qu'il veut. Pourquoi? Il a des brides, c'est ce qu'il y a dans le Coran et dans la Sunna comme interdiction. Donc c'est ça la différence entre un pieux et celui qui n'est pas pieux. Celui qui n'est pas pieux te dit, moi je suis libre. Non, j'aime la liberté. D'ailleurs c'est pour cela que je veux pas quoi? Je ne veux pas commencer à appliquer l'islam. Car l'islam, il te dit, il y a des brides. Il va dire, ceci est haram, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas manger ceci, il ne faut pas se coiffer comme ça, il ne faut pas s'habiller comme ça, il ne faut pas parler comme ça. Même avec ta femme, il ne faut pas faire comme ça, il ne faut pas ceci. Il te dit, il y a des brides. Tu lui dis, comment qu'on lui répond celui-là? On lui dit, toute personne, non, toute personne doit avoir quoi? Doit adorer. Donc choisis, ou bien tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien tu adores tes passions et shaitan. Toute personne a été créée pour adorer. Toute personne. Il n'y a pas une personne qui peut vivre sans adorer. Si quelqu'un dit moi je n'adore personne, on lui dit tu mens. Tu adores tes passions, tu adores shaitan, tu fais tout ce que tu veux. Non. Tandis que nous, non. Nous, on fait ce que Allah ta'ala veut et son prophète alayhi salatu salam. Il y a une grande différence entre le musulman et l'autre, et entre le pieux et l'autre. Naam. Ka'b ibn al-Ahbar, l'Ahbar rahimallah, a dit, pleurer par crainte d'Allah m'est préférable au fait de donner en aumône mon poids en or. préfère, je répète, pleurer par crainte d'Allah, mais préférable au fait de donner en aumône mon poids en or. Naam, pleurer par crainte d'Allah, comme vous savez, ça fait partie des sept personnes. Ça fait partie des sept personnes qui Allah Ta'ala va ombrager Yom Qiyamah. Il a cité parmi les sept, il a dit, une personne étant seule à invoquer Allah Subhanahu wa Ta'ala à pleurer. Donc, tu peux, toi, si tu étais riche, tu peux donner des kilos d'or en aumône, si tu étais vraiment, vraiment, yani, richissime. Mais, peut-être que tu ne pourrais jamais pleurer, fisabilillah. Car ce n'est pas quelque chose que tu peux avoir avec de l'argent ou là. C'est quelque chose qui vient de l'amour d'Allah et de la crainte d'Allah. Donc maintenant, une personne qui arrive, quand elle est seule, je dis, pas devant les gens, qui arrive à pleurer quand elle est toute seule, c'est que vraiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé dans un haut statut. Non, quand je lis le Coran, je pleure. Quand je pense aux pauvres, je pleure. Quand je pense à l'au-delà, je pleure. Quand je pense à la tombe, je pleure. Et comme ça. Ça veut dire que vraiment, yani, j'ai atteint yani, un degré, masha'Allah, dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je termine en lisant cette phrase. On demanda à Abu Hazim, rahimallah, on lui demanda, comment se déroule l'arrivée devant Allah? Dis-nous, comment se déroule l'arrivée devant Allah? Il répondit. Masha'Allah, comment qu'il a répondu, écoutez ce qu'il a dit. Très simple. Comment se déroule l'arrivée devant Allah? Il a dit. Celui qui a obéi à Allah, celui qui a obéi à Allah, il est semblable à l'absent qui revient auprès des siens qui l'attendent. Naam, c'est-à-dire après une longue durée. Quant au pécheur, quand il va rencontrer Allah, il est semblable à l'esclave fugitif qui s'est enfui, qui revient à son maître en colère. Subhanallah al-Azim. Quand on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, on sera de deux sortes. Celui qui, ici, dans ce bas monde, obéissait à Allah subhanahu wa ta'ala, quand il va rencontrer Allah, sera semblable à celui qui était dans un voyage, un long voyage, et vient de revenir auprès des siens qui l'attendent. Masha'Allah. Moi, quand j'étais au Koweït, je restais là-bas 6 mois pour venir. Je venais 2 fois par an. Quand je venais, vous pouvez pas imaginer la joie qu'on a quand on vient. Disons, un mois avant de venir, on commence à avoir cette joie. Ensuite, quand on vient, quand on arrive, la première semaine, la deuxième, c'est inimaginable la voix, la joie qu'on ressent quand on quitte ses parents, on revient, sa famille, on revient après une longue durée. Vraiment une grande joie. Que ce soit de notre part ou de la part de la famille. C'est d'ailleurs tous les gens qui s'éloignent de leur famille savent ce que je suis en train de dire. C'est comme ça quand tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, tu vas le rencontrer avec une grande joie et lui, ravi de toi. Et le contraire, celui qui était ici pécheur, premièrement, s'il pouvait, il donnerait tout l'or du monde pour ne pas le rencontrer. S'il pouvait, dans la tombe, déjà ici, avant de mourir, il donnerait tous les milliards s'il y avait un moyen pour ne pas mourir, rencontrer Allah. Tellement il sait que c'est grave ce qu'il a fait. Ensuite, dans la tombe, il aurait donné tous les milliards pour rester dans la tombe et ne pas aller au jour de la résurrection. Et le jour de la résurrection, Allah dit dans le Coran, il aurait donné tout ce qu'il y a aussi en or, pour qu'il n'aille pas en enfer. Non. Et il a dit, quant au pécheur, il est semblable à l'esclave fugitif. Tu as un domestique, un esclave, il s'est enfui. On l'a attrapé, on l'a rattrapé, on te l'a ramené. Non. Donc il revient à son maître en colère. Il sait que c'est grave ce qu'il attend avec son maître. Ya Allah, faites de sorte, lorsqu'on va vous rencontrer, Allah subhanahu wa ta'ala, faites de sorte que on soit du premier genre. De celui qui revient, yani, auprès des siens qui l'attendent. Faites, ya Allah, de sorte que, quand on va vous rencontrer, on soit du genre de, yani, on soit ravi et que vous soyez ravi de nous, et qu'on ne soit pas comme l'esclave fugitif qui revient envers son maître. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. On va se rencontrer, inshallah ta'ala, dans 10 minutes à peu près. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Donc, première question d'un frère. Assalamu alaikum, cher. Hayakum Allah. Qu'Allah vous préserve et vous donne encore plus de bien que ce que vous nous donnez. Si l'on fait des péchés cachés et l'on sait que c'est un mal, mais on n'arrive pas à arrêter ce péché, que doit-on faire? Pouvez-vous faire une dua pour mon nouveau-né? Barakallahu fikoum. Tfadal, cher.
Pour quelqu'un qui fait des péchés, yani quand il est seul, je lis d'abord la question. Il y a des péchés cachés, on sait que c'est un mal. Quand quelqu'un fait des péchés, ensuite après le péché, il fait tawba. Et il regrette, et vous connaissez les conditions de la tawba. Il décide de ne plus en faire et il s'abstient. Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah a dit. Il a dit, ensuite, s'il fait une deuxième fois, il fait la même chose. Il a dit, s'il fait une troisième fois, il fait la même chose. S'il fait une quatrième fois, il fait la même chose. Et il a dit, et ainsi de suite. Al-Muhim, il ne désespère pas. Il ne dit pas, j'ai fait par exemple trois fois, khlas, maintenant, yani, je suis devenu un pervers, je dois quitter. Non. Tu es en train de faire, yani, la tawba, à chaque fois, alhamdoulillah. À chaque fois que tu fais la tawba, même si tu fais le péché, je veux dire, même si tu avais déjà fait le péché, à chaque fois que tu fais la tawba, ça l'efface. Et comme ça, tu fais le péché, alors efface-le par la tawba. Efface-le par la tawba. Et après, on verra. Si, lorsque va venir la mort, est-ce que tu vas mourir dans le péché ou là tu vas mourir dans la tawba? Ça veut dire que c'est grave. Mais, il ne faut pas désespérer. Et dire que j'ai fait plusieurs fois la Touba, donc je vais abandonner la Touba. Non, il faut abandonner le péché, pas la Touba. Donc, Inch'Allah, t'as fait des efforts, et avec un peu de sincérité, et un peu de yani, l'azima, comment on dit l'azima, c'est-à-dire un peu de volonté, bi-idhnillahi ta'ala, et de sincérité, tu vas arrêter. Non, tu vas dire jusqu'à quand? Je vais terminer comme ça. Je suis le plus faible. Yani, X et X, ils sont mashallah. Regarde comment ils sont, mashallah. Et demain, je vais rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que je vais lui dire? C'est mon nefs qui maintenant qui triomphe sur moi. C'est Shaitan qui triomphe. Moi, je veux être un serviteur d'Allah, pas de mes passions. Et on arrête, bi-idhnillahi ta'ala, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'aidera. Naam. Tfadhal. La personne avait demandé de faire une doua pour son nouveau-né. Allah subhanahu wa azzawajal an yaj'ala aynaka taqarru bihi. Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'ala aynaka taqarru bihi. Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'ala aynaka taqarru bihi. Wa an yaj'alahu min ibadihi salihin wa min ulama'i din. Tafadhal.
Question suivante, question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Qu'Allah vous récompense par rapport à la parole de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, par rapport au fait de pleurer seul par crainte d'Allah. S'agit-il de pleurer souvent ou même pleurer une fois pour faire partie de ceux qui seront sous l'ombre du trône d'Allah azawajal? Barakallahu fikum, cher. Tfadal, cher.
Ce n'est pas une condition que ça soit yani toujours. Non. Si la personne déjà arrive à pleurer une fois, bi-idhnillahi ta'ala, c'est déjà, inshallah ta'ala, que yani, elle rentre dans le hadith. Pourvu qu'elle tienne bon, inshallah ta'ala, et ne fasse pas yani, le shirk, par exemple, et les choses qui annulent. Sinon, inshallah ta'ala, en faisant ça une fois, inshallah ta'ala, que la personne rentre dans le hadith. نعم والله تعالى أعلم تفضل
Suivante, question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullah, cher. Hafizakum Allah. Je vous expose ma situation. Cela fait 3 ans que je suis avec mon mari. Hélas, depuis le début de notre mariage jusqu'à maintenant, je suis très éprouvé à travers lui et vice-versa. En effet, mon mari est très passionné par le football et ne fait pas d'efforts pour avancer dans son dîn, malgré tous mes rappels, ma patience et le soutien de personnes de l'extérieur. Pourtant, je suis vivement animé par la foi. J'avance à mon allure, alhamdoulilah, et cherche à faire la hijra. Mon mari est également très violent avec moi. Il n'hésite pas à me violenter et m'insulter en cas de désaccord et de dispute devant notre fille de 22 mois qui souffre énormément de notre situation. De plus, notre situation financière est au plus bas. Il ne parvient pas à subvenir à nos besoins et a décidé de travailler chez ACN. Ah, je ne sais pas ce que ça veut dire, malgré mes mises en garde. Un organisme qui commet l'usure, par conséquent, il contribue lui aussi. Je souffre de cette situation. Il n'y a aucune communication entre nous. Je ne l'aime pas. Je n'arrive plus à le supporter. Et sa famille ne comprenne pas cette situation. N'aime pas que je sois ferme dans ma foi et ma religion et veulent me servir de boniche dans leur maison. Est-il possible pour moi de lui soumettre un ultimatum en quittant le foyer conjugal, car je n'en peux plus de cette situation? Que me conseillez-vous, cher? Car je souhaite divorcer, qu'Allah vous récompense grandement. Et cher, je vous envoie un message, Inch'Allah, lisez-le en PV et dites-moi ce qu'il en est, Inch'Allah. Tfadal, cher.
Muslim, écris-moi, barakallahu fik. Est-ce que le message a rapport avec cette question ou bien il n'a pas rapport pour que je réponde? Alhamdulillah. Donc, je dis à cette personne de voir, inshallah ta'ala, comment faire, yani, pour trouver une solution. Comment faire avec son mari et sa belle famille pour trouver une solution. Mais surtout ça, avec son mari à elle, là. Et sa famille à elle. Et sa famille à elle. Puisque sa belle famille est d'accord avec elle. El Mohim, quant à quitter le foyer conjugal et donner un ultimatum, c'est pas possible. C'est pas possible de quitter le foyer conjugal. Par contre, c'est possible de dire, yani, j'ai envie d'être divorcé, de demander le divorce. À cause de maintenant, il n'y a plus d'amour entre les deux. Pire encore, il y a la haine, puisqu'elle dit que je n'aime pas mon mari, etc. Là, dans ce cas, donc, qu'elle voit comment, yani, lui demander de divorcer ou bien de voir comment lui rendre la dot, comment lui rendre la dot et de se séparer par un khula, bi'idhnillahi ta'ala. Ou alors, comme a dit le Coran, de déléguer deux personnes, un de ta part. Et lui, il délègue quelqu'un de sa part pour que les deux personnes déléguées trouvent la solution. Trouvent la solution, comment vous séparer, ou là, comment vous rendre avec des conditions, etc. Non. Donc, c'est une affaire, comme j'ai l'habitude de dire, beaucoup plus sociale que religieuse. C'est une affaire beaucoup plus familiale, voire avec la famille, avec le mari, avec comment, inshallah ta'ala, comment yani, se séparer. Et non pas religieuse, bi'idhnillahi ta'ala. Car vous savez que quand l'un des époux déteste l'autre, il le hait et arrive même à le haïr, donc par conséquent, la vie devient invivable. Quand on hait quelqu'un, on haït le conjoint, ça veut dire qu'on ne va plus lui donner ses droits. C'est pas possible. Donc pourquoi vivre ensemble? Dans ce cas, il vaut mieux arrêter. Non. Donc, qu'elle voit, inshallah ta'ala, comment faire pour se séparer avec lui, mais d'une façon religieuse, bi'idhnillahi ta'ala. Soit qu'il la divorce, soit que ça soit elle qui fait le khol, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadhal.
Je vous donne les questions suivantes, Inch'Allah. Je lis les questions suivantes, Inch'Allah, et après, répondez-moi sur le PV. Donc, question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cher, jazakumullah khairan pour ces cours et votre investissement dans la da'wah. Ma question est la suivante. Je suis dans une situation délicate, car j'essaie, bi'idhnillah, d'avancer du mieux que je peux dans la religion et dans mon comportement. Je lis des rappels concernant le comportement de Salaf Saleh, mais à des moments je me sens faible. Cher, les fitnas sont très présentes. Que dois-je faire pour m'éloigner au maximum de ces waswas, car mon seul souhait est mourir en pleine soumission à Allah Ta'ala. Je crains pour mes péchés, peut-être qu'il y a des choses dont j'ai oublié de me repentir dans la période de l'ignorance. Je ne sais pas si je dois me concentrer sur mon présent uniquement, ou me tourner encore et encore dans mon passé pour chercher les erreurs que j'ai pu faire et m'en repentir. Le repentir peut se faire dans une situation générale ou repenser à une action bien précise? Et comment repousser de la meilleure le mal quand il nous assaillit? Barakallahu fikoum pour votre réponse, cher cher, qu'Allah Azzawajal vous préserve. Tfadal cher.
Wa alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh. En fait, comme vous savez, yani, la personne n'est pas un ange. Non. On ne peut pas être un ange au point de ne faire jamais de péché. Mais l'essentiel, c'est que quand je fais le péché, si je le fais, je dois vite me ressaisir. Et ne pas continuer dans le péché en disant, comme on a dit tout à l'heure, tout le monde se trompe et on est nombreux à faire le péché, etc. etc. Non. Comme a dit Allah Ta'ala, Inna alladhina taqaw, idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru, fa'idahum mubsirun. Allah Ta'ala a dit, les pieux, si jamais il y a quelque chose du shaytan qui les touche, ils ont dit c'est la colère par exemple, ils reviennent vite vers le droit chemin. Donc, Allah Ta'ala a dit qu'ils étaient des pieux, malgré que le shaytan les touche. Donc nous, comme dans le hadith authentique, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il savait que, s'il voyait de nous que, yani on ne ferait pas de péché, alors il nous exterminerait et ferait venir des gens qui feraient des péchés et demanderaient pardon. C'est un hadith authentique. Donc l'essentiel, bien sûr, c'est de ne pas faire de péché. Mais le plus essentiel, c'est que si on fait le péché, on revient vite vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je dis à cette personne, l'essentiel, inshallah ta'ala, c'est de se surveiller pour le présent et l'avenir, pas pour le passé. Pour le passé, à partir du moment où tu as fait la tawba, le repentir et décidé d'être dans la droiture et dans le droit chemin, inshallah, que tous les péchés ont été effacés. Tous les péchés, bi'idna, ont été effacés et tu as ouvert une nouvelle page. Maintenant, tu as un cahier avec une nouvelle page. La première page du cahier est blanche. Toutes les autres pages qui étaient auparavant étaient déchirées ou brûlées, les pages noires. Donc, ce n'est pas la peine maintenant de perdre son temps de penser au passé. Le passé a été annulé par la tawba, inshallah ta'ala. Il faut donc penser au présent et à l'avenir, bidna ta'ala. Et bien se surveiller depuis que je me lève le matin jusqu'au soir. Et ensuite, chaque jour, c'est comme ça. Et ça va faire des années. Et ensuite, tu vas te trouver, inshallah ta'ala, yani, obligé dans la tombe. Donc ce sont des jours qui passent, des jours. Toi, ton but, c'est que chaque jour, depuis que tu te réveilles le matin, alhamdoulilah, en train de surveiller. À chaque fois qu'il y a une faute, astaghfirullah, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala pardon. Et quand je vais faire la salat, inshallah ta'ala, il va me pardonner, comme on l'a vu la fois passée. Ou bien je fais une aumône. Si je n'ai pas d'argent, je fais l'aumône de la mention d'Allah. Subhanallah, alhamdoulilah, la ilaha illallah, akbar, subhanallah, alhamdoulilah. Ya Rabbi, khfirli, ya Rabbi, samahni, ya Rabbi, ceci. Naam. Et comme ça, jusqu'à ce que tu dormes. Donc, ce n'est pas, comme ils disent eux, ils disent, ce n'est pas sorcier. Donc, ce n'est pas très difficile. On te demande, et on me demande à nous tous, de ne pas faire des péchés. Mais si jamais on fait, de revenir vite vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le grave, c'est de continuer dans les péchés. Et la personne risque de mourir dans les péchés. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous aider. Et Allah subhanahu wa ta'ala regarde ce qu'il y a dans les cœurs. S'il voit que nous voulons délaisser les péchés, que nous voulons nous rapprocher vers lui, il nous a promis de nous aider. Il nous a promis de nous aider. Alors soyons sincères et Allah subhanahu wa ta'ala va nous aider. Tfadhal.
Question suivante, question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, cher. J'espère que votre santé va bien, bi'innillah. Hafizakumullah wa jazakumullah khayran pour la science que vous nous transmettez ainsi qu'à ceux qui vous aident à cela. Lorsque je délaisse une chose par crainte d'Allah, j'ai peur que mon intention ne soit pas purifiée. Et je ne peux m'empêcher lors de soujoud de dire Ya Allah, si j'ai délaissé cette chose, ce n'est que pour toi. Sois-en témoin. J'ai peur que ça ne soit pas légiféré et de rentrer dans le cas d'une personne qui rappelle à Allah un acte qu'elle a fait pour sa face en échange d'une rétribution. Pouvez-vous m'éclaircir sur cela, Inch'Allah, wa barakallahu fikum, ajma'in, et qu'Allah vous accorde à tous le Firdaus al-A'la. Amin. Tfadal, cher.
Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, ce n'est pas la peine de dire cela, car ce que tu dis là vient uniquement du waswas. Waswas que j'ai pas fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, ya'lamu sirra wa ma akhfa. C'est ce qu'il y a de caché et encore de plus caché. C'est ce que tu dis entre tes lèvres et ce qu'il y a dans le cœur. Donc c'est pas la peine de dire à Allah subhanahu wa ta'ala, sachez que je l'ai fait pour vous. Mais tu peux dire ça si tu as un problème, une difficulté par exemple, tu fais la doua, tu dis à Allah, si j'ai fait ça pour vous, alors faites-moi une solution à mon problème. Ça veut dire, ya Allah, regardez si c'est pour moi, si c'est pour vous, moi je ne sais pas, c'est par modestie. Mais quand tu as yani, comme ça tout le temps dans le soujoud de dire ya Allah, sachez que je l'ai fait pour vous là, ça se fait pas. Pourquoi? Car Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il y a dans les cœurs. C'est pas la peine de te fatiguer ni d'avoir des ouswas. Si tu l'as fait pour Allah, classe. Allah ta'ala le sait mieux que toi et avant toi. Parce que c'est lui qui t'a créé et a créé ton nefs. Avant que tu ne fasses la chose, il savait que tu allais la faire soit pour lui ou pas pour lui. Donc c'est pas la peine, inchallah ta'ala, de te fatiguer et de dire ça, car ça fait rentrer aussi dans les ouswas. Ça va te faire rentrer dans les ouswas. Et ça, les ouswas, c'est grave et on peut même en tomber malade. Puisse Allah subhanahu wa azzawajal, yani, accepter de toi et t'aider davantage, yani, à avancer vers lui. Naam, tfadlal.
Question suivante, question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma question est, je voulais savoir si des biens acquis en mendiant sont-ils licites ou illicites? Et s'ils sont illicites, doit-on s'en débarrasser en les jetant ou autre, comme par exemple des biens, entre parenthèses vêtements, qu'on aurait eu dans le passé en demandant de l'argent pour se les procurer en sachant qu'on était dans le besoin? Wa jazakumullahu khairan. Tfadal, cher.
Et avant cela, pour la personne qui parlait de prendre Allah subhanahu wa ta'ala témoin, elle a dit aussi, elle a dit, dans ce jour, j'ai dit à Allah, si j'ai délaissé cette chose, ce n'est que pour toi. Donc ici, ce n'est pas seulement elle demande à Allah, yani, je ne sais pas si c'est pour toi ou pour toi, mais au contraire, elle dit à Allah, j'ai délaissé cette chose pour toi. Naam. Aussi, je lui dis ici que, yani, ça risque de. Comme elle a dit, elle, ça risque de, yani, d'être une sorte de rappel. D'être une sorte de rappel. C'est-à-dire, moi, j'ai fait une chose, c'est pas la peine que je dise. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, sauf dans la difficulté pour faire les doigts. Maintenant, c'est pas la peine à chaque fois que je dise, Ya Allah, j'ai fait cette chose pour toi. Ya Allah, j'ai fait cette chose pour toi. Ya Allah, je l'ai délaissé pour toi. Ça veut dire que je lui rappelle que. Je suis quelqu'un de bien et que donc il doit accepter de moi, il doit me récompenser, etc. Ce sont les sous-entendus, vous comprenez? Donc il vaut mieux, inshallah ta'ala, qu'elle délaisse cela pour qu'elle soit comme yani, yani la masse des gens. Non. Donc l'autre question, je voulais savoir si des biens acquis en mendiant sont illicites ou licites, et si sont illicites. Doit-on s'en débarrasser en les jetant autres, comme par exemple des biens, vêtements qu'on aurait eu dans le passé en demandant de l'argent pour se les procurer, en sachant qu'on était dans le besoin, plus comme l'offre. Premièrement, ça fait partie du passé. Ça fait partie du passé. Donc, maintenant, si je sens que j'ai fait quelque chose de pas bien, qu'est-ce que je dis? Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala pardon. Surtout que sûrement que la personne qui a demandé ça, sûrement que l'a fait par ignorance. Sûrement que l'a fait par ignorance. Sinon, pourquoi maintenant elle demande quel est le statut? Qu'est-ce qu'elle doit en faire? Donc sûrement elle a fait ça par ignorance. Ensuite, elle a dit qu'elle avait fait ça dans le besoin. Qu'elle était dans le besoin, yani, de s'habiller, qu'il n'y avait que d'autres solutions. Donc je dis, ce n'est pas la peine de jeter ses vêtements ou de s'en débarrasser. Ça a été fait dans le passé. Il s'est dit, astaghfirullah. Pour le passé, et inshallah ta'ala, il commence une nouvelle vie, yani, dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Non, cher, je vous ai envoyé les questions suivantes. Une question d'un frère. Salam alaikum. Qu'Allah vous récompense pour le temps que vous nous accordez, cher, et pour tout ce que vous nous apprenez. Tout à l'heure, vous avez dit que la personne qui commettait un péché, sans savoir que c'en était un, était une personne à qui Allah avait enjolivé les péchés, et donc Allah lui avait retourné son cœur. Qu'Allah nous en préserve. Mais il nous arrive, en tant que croyants, de commettre des péchés en pensant bien faire par ignorance, mais bien sûr, une fois que l'on sait que c'est haram, on arrête et on demande pardon. Pouvez-vous m'éclairer à ce sujet? Dans quel cas peut-on dire qu'Allah a retourné le cœur d'une personne? Barakallahu fikum. Fadashir.
Wa alaykoum salam wa barakatuh. Ce que tu as dit ici, mon frère, ça ne s'applique pas à ceux qui Allah Azzawajal a fait retourner les cœurs. On dit d'une personne qu'Allah Ta'ala a retourné son cœur après qu'on l'ait connu, qu'elle était, masha'Allah, dans le din, dans la sunna, masha'Allah, et voilà maintenant qu'elle s'est renversée. Elle est là, en train de boire l'alcool, en train de prôner la bid'a, en train de combattre la sunna. On dit de cette personne, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver, il vient de lui renverser son cœur. Quant à la personne qui n'a pas d'ilm et qui fait des choses fausses, ensuite, quand elle sait que c'était faux, elle revient vers Allah, celle-là, Allah ta'ala, on va dire d'elle le contraire. Allah ta'ala lui a donné la clairvoyance dans son cœur. La preuve, elle faisait des fautes, maintenant elle sait que c'est des fautes et elle est revenue vers Allah. Voilà, inch'Allah ta'ala, la réponse. Donc, Allah ta'ala, on dit qu'il a retourné le cœur de quelqu'un. C'est quand il était d'abord bien, ensuite il est allé de l'autre côté. Et il commence à prôner le mal et à interdire le bien, comme les gens de la bida, comme les gens de la bida. Fadlan.
Question suivante, question d'une sœur. Salam alaykoum wa rahmatullah, cher. Lorsque nous commettons une désobéissance, mais qu'avant de la commettre, nous patientons et luttons contre nous-mêmes, est-ce que le fait d'avoir quand même fait le péché prouve que malgré notre patience, nous n'avons pas craint Allah? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tfadal, cher.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Je relis la question car je ne l'ai pas bien saisie. Je relis. Lorsque nous commettons une désobéissance, mais qu'avant de la commettre, nous patientons et luttons contre nous-mêmes. Est-ce que le fait d'avoir quand même fait le péché prouve que malgré notre patience, nous n'avons pas craint Allah subhanahu wa ta'ala? Naam. Toute personne qui fait le péché, c'est une règle, n'a pas craint Allah subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un va dire, supposons que j'ai fait le péché par contrainte, on m'a contraint et je l'ai fait, alors que je suis une personne qui craint Allah. On va lui dire, quand tu as fait le péché par contrainte, ça s'appelle pas un péché. Tu n'as pas fait de péché. Le péché, c'est quand tu fais toi quelque chose, l'âme, que Allah Ta'ala n'aime pas, de ton propre choix. Mais quand on est contraint, ça ne veut pas dire que on a fait un péché. Donc, la personne ici, qui a patienté, etc., ensuite a fait le péché, elle n'a pas craint Allah subhanahu wa ta'ala à la dernière minute. Sinon, elle aurait dû et elle devrait patienter pour ne pas le faire. Patienter jusqu'au dernier souffle pour ne pas le faire. Naam. Fadal. Car le hadith a dit que quand je vous interdis une chose, il faut la laisser carrément. Et quand je vous ordonne quelque chose, faites-en ce qu'on vous pouvez. Ce que vous pouvez, c'est tout. Quant à l'interdiction, il faut la laisser carrément. Car jamais Allah Ta'ala ou là le prophète Aslam ne nous interdisent une chose qu'on ne peut pas délaisser. Vous avez compris, c'est une règle. Jamais Allah ou le prophète Aslam ne t'interdit une chose que tu ne peux pas délaisser. Toujours, tu peux la délaisser. Tfadal.
Question suivante, question d'une sœur. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Plusieurs fois, j'ai entendu qu'il fallait réciter les sourates durant la prière, suivant leur position dans le Coran. Y a-t-il une preuve ou est-ce une bid'a? Par exemple, on ne peut pas dire sourate al-layl dans la première rak'at et dans la deuxième, dire sourate al-jumu'ah. Barakallahu fikoum. Tfadal, cher.
On peut inverser, on peut inverser. Pourquoi? Car les sourates, n'ont pas été classés, l'ordre n'a pas été classé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les versets ont été classés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous avez compris la différence? Les versets, lorsque Jibril alayhi salam descendait avec un verset ou bien deux, trois versets, il les lisait sur le prophète sallam. Le prophète sallam disait aux sahaba, mettez ce verset ou bien ces deux versets ou ces trois dans telle sourate, dans telle sourate. Vous avez compris? Donc, les versets, c'est par classification du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les sourates, non. Tu peux donc ne pas suivre l'ordre dans les sourates. Par exemple, là, je commence par Fatiha. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le Baqara. Naam. Moi, je commence pas par le Baqara. Après le Baqara, il y a Ali Imran. Je commence par Ali Imran dans la première rak'at. Et dans la deuxième rak'at, je reviens à le Baqara. Ou bien dans la première rak'at. Je lis, قل أعوذ برب الناس ملك الناس, la dernière sourate, ملك الناس إله الناس, et dans la deuxième rakat, je lis, قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. Alors que normalement, on commence par le falak et on va à sourate الناس. Quel est le dalil? Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu, comme l'a cité Ibn Hajr dans Fath al-Bari, il a dit une fois, il a fait la prière de subh, il a lu afwan, en inversant, en commençant par celle d'avant et il a fait suivi. Il l'a fait suivre par celle d'après. Et le deuxième hadith, et c'est le plus important, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé une fois. Il était avec Abdurrahman ibn Auf, si j'ai une bonne mémoire, un mohim avec un sahabi très connu, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié la nuit avec trois sahaba, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, et le troisième, c'est celui dont je doute. Je crois que c'est Abdullah Abdurrahman ibn Auf. Je crois. Un mohim. L'important, ce n'est pas le sahabi. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a commencé à lire, il a lu le Baqara. Ensuite, il a lu le Nisa. Alors que, il y a Ali Imran après le Baqara. Ensuite, il a lu le Nisa. Hadith authentique, dans le Bukhari et les autres. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Baqara, ensuite il a sauté. Ali Imran, il est allé vers le Nisa. Ensuite, il est revenu vers Ali Imran. Tout ça, dans une seule raka. Donc voilà la preuve qu'on peut inverser le ne pas suivre la classification des sourates. Par contre, c'est interdit de faire ce que je viens de faire dans la même sourate. Je donne un exemple. Le Baqara, ça commence Bismillah ar-Rahim Alif Lam Mim Zalika al-kitab la rayba fih hudan lil muttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Ça commence par ça. Et ça finit par exemple par. Ça finit par. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. آمن الرسول بما. Ensuite, dans la deuxième, je vais aller au début. Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. C'est interdit. C'est pas interdit spécialement parce que je commence par le début et la fin. Non. Par le milieu, par exemple. Imaginez le Baqara. Imaginez la première rak'at. Je vais lire Ayat al-Kursi. Ayat al-Kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ensuite, la deuxième rak'at, je vais aller plus haut. Au lieu d'aller plus bas, je remonte. Je vais aller vers, par exemple, مثلهم كمثل الذي. هذيك الآية j'ai oublié comment ça se dit avec. Enfin. Vers le Baqara, vers plus haut, du début ou un peu plus haut. Par exemple, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit, par exemple, Alif Lam Mim, Dalika Kitabu la Riba fi Hudan al-Muttaqin. Je dis ça, par exemple, alors que j'ai lu Ayat al-Kursi. Ayat al-Kursi, c'était au milieu. Donc, je ne peux pas revenir plus haut. Si je descends, il faut que je descende plus bas. Et comme ça. Naam. Voilà, Inch'Allah ta'ala, pour la réponse. Tfadlal.
Question suivante, question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullah ya Abu Abdillah. Je souhaiterais savoir comment s'obtient la crainte d'Allah. On entend souvent certaines personnes dire « je crains Allah », mais véritablement on se demande si c'est le cas. Surtout quand on s'aperçoit ce qui se passe autour de nous. J'aimerais, min fadlikoum, vraiment savoir les causes permettant d'obtenir la crainte d'Allah et les actions y amenant, inshallah, afin de nous rapprocher d'Allah, jalla wa ala, de la meilleure façon, bi'inillah. Hayakum Allah ya Abu Abdillah. Tfadal, cher.
Une seconde, Inch'Allah, je cherche la question à dire. Une seconde. Je veux savoir comment s'obtient la crainte d'Allah. On entend souvent des personnes dire, je crains Allah, mais vite, on se demande si c'est le cas. Surtout quand on s'aperçoit ce qui se passe autour de nous, j'aimerais faire des conseils. Les causes permettant d'obtenir la crainte d'Allah et les actions y amenant, Inch'Allah ta'ala. Là. Donc, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est surtout basée sur la science. C'est pour ça qu'Allah ta'ala a dit, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Il a dit, certes, yani craignent Allah subhanahu wa ta'ala les savants, c'est-à-dire pas les juhal. C'est pour ça que vous trouvez que quelqu'un qui n'est pas savant, qui est jahil, qui est ignorant, il fait beaucoup de fautes. Il fait beaucoup de fautes, beaucoup de péchés. Et les gens disent de lui, et qu'est-ce que tu veux, c'est un ignorant. Par contre, le savant, non. Pourquoi? Car il craint Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour craindre Allah subhanahu wa ta'ala, il faudrait yani, connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, connaître ce qu'il aime pour qu'on le fasse. Connaître ce qu'il est pour qu'on le délaisse. C'est pour cela que plus tu crains Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu as de la science, plus tu crains Allah subhanahu wa ta'ala. Plus tu es ignorant, plus tu vas faire des péchés. Non. Plus tu as de la science, plus tu connais Allah subhanahu wa ta'ala avec ses noms, ses attributs. Non. Plus yani, son importance prend une grande place dans ton cœur. Ça devient, yani, il a une grande valeur dans ton cœur. Et plus tu connais pas Allah subhanahu wa ta'ala, plus yani, tu peux faire facilement les fautes. Donc je dis, comme a dit cette personne, ce n'est pas toute personne qui dit je crains Allah que ça veut dire que vraiment elle le craint. On a beaucoup qui disent ça, mais qui ne le craignent pas, yani, comme ils devraient le craindre. Non. Donc voilà, inshallah ta'ala, si quelqu'un veut vraiment craindre Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il connaisse Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Qu'il apprenne sa religion, et vous allez voir que plus vous apprenez, et plus vous délaisserez les péchés bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Et plus vous sentirez que yani, faire une faute et faire un péché, c'est quelque chose yani, d'horrible. Alors, vous ferez des efforts pour les délaisser. Mais quand quelqu'un est jahil et ignorant, il se remplit de péchés, il dit j'ai rien fait. Oh, j'ai rien fait, tout le monde fait des péchés. C'est difficile de nos jours. Comme ça, il va dire. Naam. Hayyakumullah. Tfadlal.
Question suivante, question d'une sœur. Salam alaykoum wa rahmatullah, Cheikhana. Barakallahu fikoum pour ce cours profitable. Je voulais vous demander, j'ai beaucoup de mal à être dans l'équilibre entre crainte et espoir. Pouvez-vous me conseiller, Inch'Allah, Barakallahu fikoum, j'ai tendance à soit être trop dans la crainte, soit trop dans l'espoir. Hafizakoum Allah, Cheikh. Tfadal, Cheikh.
Justement, d'un côté, il faut avoir les deux. Car celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala avec la crainte seulement, il fait partie des khawarij. Et celui qui le craint, et celui qui l'adore seulement avec l'espoir, fait partie des murji'a. Donc maintenant, la personne, le salafi, doit être au milieu. C'est comme un pigeon avec deux ailes. Une aile où il y a la crainte, une aile où il y a l'espoir. Donc je dis à cette personne, à chaque fois que yani, tu sens que tu te sens que tu vas étouffer et que vraiment j'ai peur et que Allah Ta'ala ne va pas me pardonner, que c'est l'enfer qui m'attend, la tombe, etc. Là, on doit quoi? On doit yani, se baser sur l'espoir. On doit faire grandir l'espoir. On doit oublier un peu ces choses-là et lire les choses de Jannah, de l'espoir, etc. Et le contraire. Et dès que tu vois que tu t'oublies et que tu commences à faire des péchés, que Allah subhanahu wa ta'ala ghafur rahim, Allah est pardonneur, Là, tu te ressaisis et tu reviens vite vers yani, le fait d'avoir peur, la crainte. J'ai peur de Allah subhanahu wa ta'ala. Attention, Allah est ghafoor rahim, mais yani, pour celui qui fait la tawbah, pas pour tout le monde. C'est pas je fais des péchés du matin au soir et je dis Allah est ghafoor rahim. Et comme ça, donc ce sont des moments et des moments, des situations et des situations, des jours et des jours. Le matin, peut-être c'est la crainte, le soir, c'est l'espoir. Et comme ça, je dois voir comment concilier entre les deux. Comment concilier entre les deux et peut-être donner un peu plus d'espoir que de crainte. Non. Pour ne pas yani, se sentir yani, que toutes les portes sont fermées. Wallahu ta'ala alam. Tfadhal.
Question suivante. Question d'un frère. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Hayakum Allah. Est-ce qu'il vous serait possible, cher, barakallahu fikoum, de nous faire prochainement, inshallah, un livre qui nous explique comment bien suivre correctement notre dîn sans être attaché aveuglément à un madhhab et ne pas faire de taqlid dans le dîn? Cheikh Al-Albani, rahimahullah, en a parlé au début du livre sur la salat. Mais s'il vous serait possible de nous faire plusieurs cours dans ce domaine, et si vous connaissez un livre bénéfique dans ce domaine, Jazakumullah khairan wa hafizakumullah. Tfadal cher.
Naam. Premièrement, alaykoum salam, wa barakatuh. Plusieurs personnes demandent yani, des choses qui sont bien, qui sont bénéfiques, qui sont masha'Allah. Mais comme vous savez, yani, des fois on commence comme ça un programme qui yani, ne finit pas. Naam. Quand on commence un livre, par exemple, c'est difficile de l'arrêter à moitié, ensuite d'aller vers un autre et de revenir ensuite vers l'autre. C'est pour cela qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'allonger dans notre vie et yani, de nous aider à ce que yani, on exauce vos voeux. Comme tout à l'heure, par exemple, quelqu'un m'a dit que si c'était possible aussi de faire une audio ou quelque chose comme ça pour yani, comment faire la da'wa au kuffar. La personne dit que. Il avait parlé avec un curé ou quelque chose comme ça, et le curé, qui était, je crois, je pense, son voisin ou là, il lui a dit jamais de ma vie, ou Afon, il n'a pas parlé avec un curé, il a parlé avec un chrétien, qui lui a dit que jamais de la vie, le curé ne nous a parlé du paradis. Subhanallah, l'adem. Le curé, qu'est-ce qu'il dit seulement? Il faut vous aimer les uns aux autres, il faut avoir un bon comportement, il faut ceci, il faut cela. Mais jamais il a dit, il n'a parlé de paradis. Il a dit, je lui ai parlé seulement yani, avec un peu de détails. Du paradis, il a dit, il a été très content, très content, très très content. Il a dit, si c'est possible, yani, vous nous faites des cours comme ça, comment yani, attirer les kofars, comment leur faire la da'wa, etc. Je dis, Inch'Allah, si c'est possible, là. C'est une question de temps, c'est une question de, comme vous savez, d'effort, de temps, de planification, de. Enfin, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous aider. Naam, tfadal. De toute façon, vous, de toute façon, là, vous, en France ou là, en Europe ou là, vous avez une grande responsabilité. Enfin, ce n'est pas comme nous. Vous avez une grande responsabilité. Demain, devant Allah subhanahu wa ta'ala, à cause des non-musulmans qui sont avec vous, pour ne pas leur avoir fait dawa et ne pas leur avoir parlé du dîn. Chaque non-musulman qui vous connaît bien sûr, va vous accuser demain devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il va dire à Allah, celui-là c'était mon voisin, ou là c'était travailler chez moi, là je travaillais chez lui, ou là, il ne m'a jamais parlé. Il ne m'a jamais parler de l'islam. Il habitait collé à moi et il ne m'a jamais parlé de l'islam. Celle-là, c'était ma voisine. Elle rentrait chez moi, je rentrais chez lui. Elle ne m'a jamais parlé d'islam, par exemple. Donc, c'est une grande responsabilité. Vous avez demain devant Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, l'une des façons aussi de faire la da'wa, c'est d'avoir un bon comportement. Quand il voit déjà le bon comportement, tu peux dire que pour moi c'était une façon de faire la dawa. Ensuite, quand j'ai dit que Yani, les gens vont dire, il m'a pas parlé, etc. Ça, c'est seulement pour les gens qui acceptent. C'est-à-dire, si j'ai essayé une fois avec ma voisine ou là, elle n'accepte pas, elle m'a dit, ne me parlez plus de ça ou j'aime pas ça ou là, là, je suis excusé. Vous avez compris? Mais je parle de la personne, par exemple, qui accepte, qui est prête à écouter, qui voudrait connaître des choses, et moi, je la prive. Je ne lui parle jamais de ça. Je parle seulement de, yani, qu'est-ce que tu as acheté, quelle robe tu as acheté, quelle coiffure tu t'es coiffé, comme ça, on parle du matin au soir, de ça, au lieu de lui parler du dîn, au lieu de, par exemple, d'être une cause pour l'attirer. Non, c'est très grave même. Tfadlal, Akh Muslim. Non, ils sont des milliers et des millions à ne pas savoir. Des milliers et des millions qui, yani, ne savent rien, rien, rien de l'islam. C'est seulement un nom, l'islam, et à côté d'islam, il y a terrorisme. Islam égale terrorisme, c'est tout. Pour la plupart des milliers et des millions de gens, tu dis musulmans, ils t'imaginent avec une hache, ou bien une bombe de, dans le sac. Tu vas la déposer quelque part. Attention, attention, c'est un terroriste, attention. C'est ça l'islam, c'est ça le musulman. Donc il y a des millions de gens qui ne savent pas. Non. Non, non.
Question suivante. Question d'un frère. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ba'd. Salamu alaykoum, cher, en espérant que vous allez bien. J'ai une demi-sœur du même père. Elle vit actuellement avec un kofar d'une famille athée, mais lui croit en Allah. Ils ont un enfant de 2 ans. Sa mère, c'est-à-dire la mère de ma demi-sœur, l'accepte. Et mon père et plus en Algérie qu'en France, mais je pense qu'il accepte aussi. J'ai fait plusieurs nasiha entre ma sœur, envers ma sœur Afwan, mais pour l'instant, Allahu alam. Mais envers le mécréant, j'en ai fait. Donc en fait, les parents de ma demi-sœur acceptent plus cette situation dans l'illicite que moi qui porte la barbe, sachant qu'il y a une personne seulement qui fait la salat, c'est un de mes demi-frères. Je suis marié depuis 1 an et j'ai emmené ma femme qu'une fois en 1 an, car je me sens vraiment pas bien avec eux. Comment mon comportement doit être avec eux tous? Et j'empêche souvent même ma demi-sœur de venir chez moi, car je sais qu'elle ramène avec lui le mécréant. Barakallahu fikoum, cher, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous élève en science. Tfadal, cher.
Non. Est-ce que tu peux lire avec moi le Ousmane? Parce que j'ai pas compris quand il a dit que j'accepte, moi j'accepte. Eux ils acceptent et moi avec la barbe, yani, j'accepte moins. Ou la... Ça j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il accepte? Il a dit, j'ai fait. C'est un autre. Donc en fait, les parents de ma demi-sœur acceptent plus cette situation. N'acceptent plus ou la acceptent plus dans l'illicite. Les parents de ma demi-sœur. Que moi qui porte la barbe. J'ai pas compris ce passage. Tfadlal.
Non, cher, enfin, le PC était bloqué, j'ai pas entendu ce que vous m'avez demandé. Vous pouvez relire la question, cher. Demandez-moi, cher, j'ai pas compris. Est-ce que vous voulez que je relie la question ou que je vous explique le lien de parenté du frère? Je n'ai pas entendu.
Non, je n'ai pas compris le passage où il dit sa mère, c'est-à-dire la mère de ma demi-sœur, l'accepte. Elle accepte quoi? Et mon père, et plus en Algérie qu'en France. Mais je pense qu'il accepte aussi. Qu'est-ce qu'il accepte aussi le père? Ça, je n'ai pas compris. Ensuite, il a dit. Donc, en fait, les parents de ma demi-sœur acceptent plus ces situations dans l'illicite que moi qui porte la barbe. Donc toi, normalement, tu ne devais pas accepter. Comment tu acceptes plus? Elle dit, j'ai pas compris. Tfadlal.
Non, mais cher, en fait, il veut dire que sa belle-mère, donc c'est-à-dire la mère de sa demi-sœur, accepte la situation de sa demi-sœur, car elle a un mariage qui est illicite, car elle dit que son mari est athée. Et donc il est connu qu'une musulmane ne peut pas se marier avec un athée. Et donc ils disent que ses parents, en fait, les parents de sa demi-sœur, donc son père et la mère de sa demi-sœur, acceptent sa situation, ils ne sont pas contre. Il ne dit pas que sa mère est athée. C'est pas écrit. C'est la mère de. C'est les parents du mari qui sont athées. J'ai une demi-sœur du même père. Elle vit actuellement avec un kofar d'une famille athée. Mais lui croit en Allah. Donc il croit en Allah, mais il est athée. Ils ont un enfant de 2 ans. Sa mère, c'est-à-dire la mère de ma demi-sœur, l'accepte. Et mon père, qui est plus en Algérie qu'en France, je pense qu'il accepte aussi. Donc là, il dit pas que sa mère est athée. Et après, il dit. En fait, il veut dire que ils acceptent quelque chose d'illicite. Ah, mais les parents du kofar sont athées. Donc la mère du kofar. Les deux parents. Le père et la mère du kofar sont athées. En fait, en gros, cher, pour résumer, il veut dire que ses parents, donc les parents de sa demi-sœur, acceptent plus une situation qui est normalement inacceptable que lui qui est dans le din, qui a la barbe, etc., qui est marié avec une musulmane. Voilà, c'est ça en résumé qu'il veut dire. C'est qu'ils acceptent plus l'illicite que le licite. Wallahu a'lam. Et si ce n'est pas ça qu'il fallait comprendre, je demande au frère de me le préciser en PV. Tfadal, cher. Et dites-moi si vous avez compris le lien de parenté.
Donc c'est une personne qui a une demi-sœur et enfin, confirme-moi musulman, il a une demi-sœur et cette demi-sœur est mariée avec un kafir qui appartient à une famille athée. Enfin, voilà. Et maintenant il dit que j'empêche même ma demi-sœur de venir chez moi. J'ai marié depuis 1 an. Il n'y a qu'une personne seulement qui fait la salat, c'est un de mes frères. Je suis marié depuis 1 an et j'ai emmené ma femme qu'une fois en un an. Quand je... non. Donc il dit que pendant 1 année, il n'est pas parti chez sa demi-sœur. C'est ça, pendant 1 année, que même sa demi-sœur, il l'empêche de venir à cause du mécréant qu'elle ramène. À cause du mécréant qu'elle ramène. Non. Voilà. Non, non, c'est comme il a dit. C'est comme il a dit. Moi, ma soeur qui s'est mariée avec un kafir, ou là, ma demi-soeur qui s'est mariée avec un kafir, donc c'est terminé entre nous. C'est-à-dire, si je laisse quelque chose pour la dawa, et je sais que ça marche, et que elle m'entend un peu, et qu'elle dit d'accord, donne-moi un peu de temps, etc., et je sens que elle a un peu de remords, etc., je ne coupe pas les liens. Je ne coupe pas les liens. Mais si je sais que khlas, elle a décidé de vivre avec ce kafir, et elle dit, c'est pas la peine de parler de ça. Hein, c'est quelque chose de khlas, terminé. Je dois continuer avec lui, etc. Dans ce cas, je coupe les ponts avec elle. Non, je coupe les ponts avec elle. Elle est dans les grands péchés, elle vit avec un kafir. Je me désavoue d'elle. Je me désavoue d'elle. C'est pas la peine que j'aille chez elle, ni qu'elle vienne chez moi. Et la même chose quand il a dit ici, je l'empêche de venir chez moi à cause du mécréant. Si tu savais que il y a de l'espoir dans ta sœur et même dans ce mécréant, nam, ça ne fait rien qu'ils viennent. Ils viennent pour la da'wa. Je les considère comme des étrangers. Il y a un couple, il y a Pierre et Jacqueline. Pierre et Jacqueline que je connais pas, qui me disent, est-ce qu'on peut venir manger chez toi ce soir? Tu nous parles de l'islam. Ou bien est-ce qu'on peut venir manger chez toi pour discuter un peu? Et que je sais d'avance que je vais leur parler d'islam et qu'inch'Allah ta'ala, ils m'entendent. Je ne vais pas dire qu'ils vont rentrer en islam, ils m'entendent. Ça aurait été mieux. Ça aurait été très. Donc, une chose pareille, c'est très, très demandé, très recommandé. Je vais leur acheter ce qu'ils veulent pour manger. Juste qu'ils me donnent le temps de leur parler, qu'ils m'écoutent. Qu'en est-il maintenant? C'est ma demi-sœur. Mais allez, qu'elle vienne, qu'elle ramène à le kafir, s'ils m'entendent. Peut-être qu'Allah Ta'ala va faire de moi, yani un sabab. Et que ma soeur va revenir vers la droiture, et que lui aussi, peut-être qu'il va rentrer en islam. Même s'il ne rentre pas lui, au moins elle. Et peut-être c'est pas elle, peut-être c'est lui aussi. Tu gagnes qu'un kafir rentre en islam. Mais si, c'est ça le, si je puis dire, la chose sur laquelle on doit se baser. Pour savoir si je reste avec une personne ou je coupe les liens avec elle. Je laisse le pont avec une personne si je sais qu'il y a de l'espoir. Si elle me ferme toutes les portes, elle me dit c'est pas la peine de parler islam, pas la peine de me parler de ce kafir, moi je vais vivre avec lui, etc. Là, c'est terminé entre nous. Naam. Donc c'est à toi, inshallah ta'ala, de voir.
Question suivante. Question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. J'ai été marié à un homme pendant 2 ans. Et j'ai subi beaucoup de préjudices, de violences pendant tout ce temps. Il était violent, me frappait et m'étranglait, et même devant notre bébé. J'ai beaucoup patienté, je l'ai conseillé à craindre Allah et de changer son comportement, mais cela ne s'est pas fait. Je suis resté dans le silence pendant tout ce temps. Quand la situation est devenue dramatique pour moi et notre bébé, et qu'il voulait nous jeter à la rue et me divorcer, j'ai commencé à en parler à certaines personnes pour trouver de l'aide et tenter de lui faire ruqya. Ai-je commis un péché en parlant sur mon ex-mari et en racontant la situation familiale dans laquelle on était et qu'il m'a fait beaucoup souffrir? Est-ce qu'il aurait été mieux de me taire et de ne pas me confier? Barakallahu fikoum, qu'Allah nous pardonne nos péchés et améliore nos comportements. Tfadal cher.
Walaikum salam wa barakatuh. Yani la personne, quand on lui fait du tort et on la lèse, c'est très normal qu'elle veuille se confier et que elle sent qu'elle va éclater, elle va étouffer. Donc, si maintenant cette personne ou cette sœur a parlé à certains gens dans le but de pour dire ce qui se passe, qu'elle a des malheurs sur le dos, qu'elle a des problèmes, et qu'elle voudrait se confier pour chercher une solution. Non, ce n'est pas interdit. Sinon, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, sinon pourquoi pourquoi en islam c'est permis d'aller chez le juge? Le juge c'est un étranger, et je vais tout lui raconter en détail. Pourquoi? C'est pour me trouver une solution. Que mon mari revienne vers le droit chemin, pour qu'il me divorce, c'est pour ça que je vais chez le juge. Pourtant, il n'y a pas de juge musulman, donc je me confie. Il y a des gens que je connais bien, des gens intimes. Chacun de nous a des amis intimes, un ou deux ou trois, ou ça dépend. Non, qu'on trouve dans les moments difficiles. On ne peut pas tout seul vivre tout seul comme ça et n'avoir personne à qui parler et de ne recevoir. D'aucun conseil de personne, c'est difficile. Donc si cette personne a parlé dans le but de se confier pour ne pas éclater, et en même temps de chercher, inshallah ta'ala, une solution, ce n'est pas interdit, bi'idhnillah ta'ala, et puisse Allah subhanahu wa ta'ala l'aider à la faire sortir de ce gouffre. Naam, tfadlal cheikh.
Donc, question suivante. Question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullah. Qu'Allah vous récompense en bien et vous comble de bonheur dans cette vie et dans l'autre. Cher, j'aimerais que vous me conseilliez. Je suis quelqu'un qui n'est jamais sûr de moi dans toutes les décisions de la vie courante. Je doute beaucoup et j'ai très peu confiance en moi. Deux frères se présentent à moi, mais sont complètement différents. Le premier est assez jeune, 24 ans. N'a pas beaucoup de science, mais suit la sunna et a un bon comportement. Le deuxième a 30 ans et a un niveau de ilm assez élevé. Il a étudié auprès des savants, mais demande à ce que sa femme habite dans la même maison que sa famille en attendant de faire la hijra. Et c'est cette condition qui me fait peur. Dois-je refuser à cause de cette condition, car cela peut amener des fitnas dans le futur, ou dois-je accepter en ayant confiance en Allah? Barakallahu fikoum, je m'excuse pour la longueur. Et la sœur donc précise qu'elle a fait salat istikhara et qu'elle est âgée de 22 ans. Tfadal cheikh.
Quand la personne fait salat al-istikhara, elle demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui choisir. Si elle ne sent rien ou ne voit rien, ou son cœur ne penche en aucun côté, ça ne veut pas dire que c'est terminé. Elle peut la refaire deux, trois fois, car il est possible qu'elle soit tombée dans un moment où la salat n'était pas acceptée, ou bien elle, par exemple, elle n'était pas dans. Elle n'avait pas le khushu' dans le cœur, etc. Elle a fait la salat de consultation d'une façon peut-être distraite. Distraite. Naam. C'est pour cela que elle devrait recommencer, inshallah ta'ala, la salat al-istikhara, bi'idhnillah ta'ala. Ensuite, pour dire comme ça facilement, yani choisir celui-ci ou celui-là, c'est très difficile. C'est très difficile de dire. Je peux dire seulement que, puisque le deuxième, yani, a dit qu'il fallait habiter chez les parents, il a bien dit, et tu dis bien que c'est juste le temps de faire la hijra. Que donc, ce n'est pas, yani, vraiment une embûche. Si c'était habiter à vie avec le mari chez ses parents, peut-être, car il y a des sœurs qui, par exemple, n'acceptent pas cela. Et il y en a celles qui acceptent. Il y en a celles qui disent, moi, voilà. Il y en a celles qui disent, moi, j'accepte et c'est pas une embûche pour moi. Et il y en a d'autres qui sont fragiles et qui, par exemple, voudraient vivre seules et c'est leur droit. Naam. C'est pour cela que je dis à cette sœur que, yani, de demander à Allah subhanahu de refaire l'istikhara et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, yani, de lui montrer, puisque les deux, yani, le premier, il a dit qu'il était assez, pas assez de science, mais avait, yani, suivi la sunna, un bon comportement. Et le deuxième aussi, qu'il avait plus de science, etc. Que l'embûche, c'était seulement, yani, d'habiter avec lui quelque temps. Et moi, je dis que, puisque c'est seulement quelque temps, que ce n'est pas une embûche. Et malgré cela, Inch'Allah Ta'ala, refais salat istikhara et tawakkal à Allah. Donne, Inch'Allah Ta'ala, une dernière question, cher. Ah oui, avant d'oublier, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Naam. Pour une personne qui m'a écrit ici, attendez, je cherche, c'est sur le salon à prendre de tawhid. Muslim, est-ce que tu peux me reposer la question, Barakallahu fik? Sur le salon apprendre l'islam sur le tawhid. Je peux me reposer la question, tafadhal. Je l'ai pas trouvé. Voilà. Salam alaykoum rahmatullah. Pardonnez-moi de vous déranger. J'aurais souhaité que vous demandiez à Cheikh, si possible, s'il peut reparler d'histoire concernant le frère Abu Oussama, qui ouvre une rampe qui s'appelle Apprendre la religion sur le chemin de tawhid, le samedi soir. Je crois que maintenant c'est le dimanche, Wallahu alam, c'est pas le samedi, Wallahu alam. Qui s'appelle, il a parlé de lui la dernière fois, dimanche. J'aimerais qu'il confirme et donne des précisions s'il le peut, car beaucoup de personnes écoutent ce frère et le défendent. Barakallahu fikoum. Naam. J'aime, quand je veux parler avec science. Naam. Donc, je suis en train de regrouper les dalils. Pour l'instant. Il y a quelqu'un qui s'appelle ici Cheikh Azdin, qui est très connu de Draria. C'est l'un des têtes des salafis ici en Algérie. Pour l'instant, ce Cheikh Azdin a parlé en très mal de ce Abu Oussama. Et il m'a dit de faire sévèrement une mise en garde contre lui. Mais j'ai préféré attendre de regrouper les dalils. Je ne veux pas parler comme ça sans preuve. Je veux vous faire écouter ce qu'il a dit et d'autres délits, inshallah ta'ala. C'est pour ça que, donc pour l'instant seulement, éloignez-vous du salon jusqu'à ce que je vous apporte, inshallah ta'ala, des choses que vous entendrez de vos propres oreilles. Tfadlal. Donc c'est quoi la dernière question, cher?
Non, donc la dernière question pour ce soir, Inch'Allah, question d'une sœur. Assalamu alaikum. Barakallahu fikoum, cher, et à toute l'équipe pour vos efforts et qu'Allah vous récompense tous en bien. Amin. Une sœur que je connais m'a transmis le message suivant pour aider une sœur Fillah. Je vous contacte au sujet d'une sœur de Paris qui fait des cours avec moi atteinte d'un cancer du sein. Subhanallah, c'est l'apprécie énormément. Elle ne se plaint presque pas. Elle est très gentille et serviable, généreuse qu'Allah lui accorde le paradis. Et je veux vraiment l'aider. Elle souhaite se procurer de l'urine et lait de chameau ou chamelle. Si vous avez moyen de vous en procurer, dites-le moi à Khawat. Si vous pouvez demander aux gens qui vous entourent, Barakallahu fikouna, contactez-moi par message. Je me suis renseigné et ces traitements font partie de la sunna. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur ordonna de suivre ces chameaux et de boire leur lait et leur urine. C'est ce qu'ils firent jusqu'au recouvrement de leur santé. Hadith rapporté par le Bukhari. J'aurais aimé savoir si vous savez où je peux m'en procurer en Algérie, une adresse ou le nom d'une boutique vers la wilaya d'Alger et de Tizi Ouzou. Et si vous connaissez un éleveur de chameaux qui pourrait nous en fournir, bi'inillah, wa jazakumullahu khairan. Tfadal, cher.
Walaykoum salam wa barakatou. D'abord, Allah Ta'ala alam, ce que je sais pour l'urine de la chamelle, pas du chameau, il faut que ça soit de la chamelle, c'est, je pense, Allah alam, pour celles qui ont, là, ceux qui ont le cancer de l'estomac. Car c'est quelque chose qui se boit. Donc ça n'a rien. Bon, ici qu'est-ce qu'elle a dit? Une seconde. Quel cancer elle a dit? Cancer du sein, non. Cancer du sein. Je ne sais pas si ça a un rapport. Voilà, je ne sais pas si ça a un rapport. Parce que l'estomac, quand on boit quelque chose, ça va donc rentrer dans l'estomac. On fera des recherches si ça a un rapport aussi avec le sein ou non. El Mohim, pour quelqu'un qui veut cette urine ou là, il faudrait que Yanni contacte quelqu'un ici en Algérie. Car cette urine ne se trouve pas à Alger ou à Tizi Ouzou. Il faudrait que ça soit du côté du Sahara. Du côté du Sahara. Ouarglat, Tamanrasset, Tekda, Biskra, du côté du sud. C'est pas Alger ni à Tizi Ouzou. Donc il faudrait que la personne contacte Inch'Allah Ta'ala une personne ici qui pourrait yani, faire des démarches pour yani, aller le lui ramener de là-bas. Donc chacun essaye de son côté. Si nous on arrive à trouver une personne, Inch'Allah Ta'ala, je vous contacterai bi'idhnillah Ta'ala. Naam. Mousseline, as-tu une dernière chose à dire, tfadhal?
Là, cher Barklo, Fekoum, Akh Mohamed, j'ai transmis à la sœur que tu connaissais quelqu'un, Inch'Allah. Cher, le Akh Mohamed vient m'envoyer un whisper me disant qu'il connaissait une personne qui renvoie à Meknès. Donc j'ai dit à la sœur de le contacter, Inch'Allah. Donc je dis à la sœur donc, de voir avec Akh Mohamed, il pourra directement vous renseigner, bien. Qu'Allah vous récompense grandement, cher. Barklo, Fekoum. Et à samedi, bien là.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نتلاقى صامدي إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.